7h-9h,
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le lundi 18 février, l'antisémitisme est de nouveau à la une de l'actualité, tristement. Après les insultes dont a été victime Alain Finkielkraut ce samedi à Paris pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Des images de haine où l'on voit un homme particulièrement virulent. Il aurait été identifié comme proche de Dieudonné et d'Alain Soral. On va revenir sur cette affaire dans quelques secondes dans le journal de 7h avec Hélène Zeleny. Et à 7h45, première réaction sur Europe 1 de l'écrivain et philosophe Bernard-Henri Lévy. Cette 14e journée de mobilisation des Gilets jaunes a également été marquée par des débordements à Lyon notamment. Un fourgon de police a été violemment caillassé par des manifestants. Vous entendrez le témoignage très fort du chef d'équipage qui était dans la voiture au moment de l'attaque. Ce sera à 7h30. Alors le mouvement est-il en train de prendre une tournure plus radicale? À 7h40, on écoutera l'analyse de Jean-Michel Appetit. Et puis qu'en pensent les Gilets jaunes eux-mêmes de cette actualité, de cette tension? Toutes les réactions dans les éditions jusqu'à 9h. Voilà pour le programme. Il est plutôt chargé, mais il est passionnant parce qu'on le partage avec vous. Très heureux d'être à vos côtés pour bien commencer la semaine. Bon réveil à tous.
Et merci de nous avoir choisis en ce lundi 18 février. Bon réveil, il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour Hélène Zeleny.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À l'une de l'actualité ce matin.
La dérive du mouvement des Gilets jaunes avec notamment les insultes antisémites à l'encontre d'Alain Finkielkraut, vous en parliez, l'un des suspects a donc pu être identifié. Certains départements déjà prêts à réautoriser le 90 km/h sur les départementales, notamment le Loir-et-Cher, info Europe 1 et reportage dans quelques minutes. Et puis, c'est le printemps avant l'heure, superbe week-end pour tout le monde, vacanciers et commerçants ont le sourire.
Europe 1.
Une haine criée à la face d'Alain Finkielkraut, des insultes qui ont glacé le sang de nombreux Français. Ça restera l'image marquante de ce week-end. C'était samedi, lors du 14e épisode de la mobilisation des Gilets jaunes. Barre-toi, sioniste de merde, elle est à nous la France, tu vas aller en enfer, voilà ce qu'on entend. Une enquête est ouverte, même si Alain Finkielkraut n'a pas souhaité porter plainte et l'identification des agresseurs est en cours, Pierre de Cossette.
Chose assez rare dans une affaire d'injure, les enquêteurs ont la chance de bénéficier de plusieurs vidéos. Donc à la fois le son pour distinguer les insultes adressées à Alain Finkielkraut, sale sioniste, rentre chez toi en Israël, la France elle est à nous, et les images pour visualiser tout ou partie de ceux qui les ont proférées. Pour l'heure, les policiers en sont à identifier les suspects, pas une mince affaire, même si pour l'un d'entre eux, c'est fait. Un homme barbu, foulard type keffi autour du cou, pas dérangé le moins du monde par l'objectif qu'il filme et qui lance à Alain Finkielkraut et espèce de raciste, tu es un haineux et tu vas mourir, tu vas aller en enfer et Dieu il va te punir. Il s'agit d'un homme déjà connu pour des outrages aux forces de l'ordre. Sera-t-il interpellé? Pas nécessairement, il peut être convoqué à condition que ses propos soient considérés comme pénalement répréhensibles. Dans tous les cas, c'est le parquet qui a ouvert l'enquête qui décidera de la méthode, sachant qu'il y a d'autres personnes à identifier, sachant également qu'aussi sensible et médiatique soit l'affaire, la peine encourue pour des injures raciales est de 1 an de prison et 45 000 euros d'amende.
Pierre de Cossette, 14 partis politiques appellent à des rassemblements contre l'antisémitisme demain à Paris et dans toute la France. Alain Finkielkraut n'a pas l'intention d'y participer. J'ai plutôt envie de me cacher, dit-il. Elle ne s'est pas cachée. Elle est venue avec son gilet jaune à la manifestation parisienne d'hier pour célébrer les 3 mois du mouvement. Ingrid Levavasseur, l'un des visages bien connus dont la liste RIC est finalement tombée à l'eau, a dû être exfiltrée face à l'hostilité des manifestants qui la traitaient notamment de vendue et même de sale juive. Des gilets jaunes regrettent pourtant ce type de débordement, Justin Morin.
À peine quelques heures après la prise à partie d'Ingrid Levavasseur, Muriel et Caroline ont déjà vu la vidéo. Ces deux gilets jaunes s'opposent à toute participation aux européennes, mais elles ne peuvent que regretter ce qu'il s'est passé.
Moi, je la vois dans la rue, je lui dis pas bonjour, c'est tout, je veux pas l'agresser, ça va pas.
On n'est pas violent.
On n'est pas haineux, on n'est pas réfractaire, on est pas.
Gentil. Il n'y a pas d'intérêt, on ne va pas se faire la guerre entre nous non plus. Elle est là aussi pour la même cause de base.
Toutefois, Firouz, infirmière en région parisienne, reconnaît que cette violence fait aussi partie du mouvement. Elle la condamne, mais elle essaye surtout de comprendre.
Je sais que c'est pas normal d'insulter les gens. Mais vous savez que ce mouvement, on parle de la population française. La population française, c'est pas les cols blancs, c'est pas les médecins, c'est pas des avocats. Non, c'est-à-dire les classes sociales sont différentes. Il y a des gilets jaunes qui n'ont jamais su qu'est-ce que c'est le respect. Parce qu'ils ont été dans la confrontation, dans la dualité, dans leur vie, ils savent que ça. Hein. Il y a une colère de tout.
Une colère de tout, souvent exprimée maladroitement, selon cette infirmière, mais qui prouve surtout l'urgence de la situation.
Justin Morin. Et puis débordement encore avec l'attaque d'un fourgon de police samedi à Lyon. Insupportable, réagissait sur Twitter Christophe Castaner. Vous entendrez le policier qui filme la scène de l'intérieur dans le journal de 7h30.
C'était justement l'un des sujets de crispation au début du mouvement des Gilets jaunes, les 80 km/h sur les départementales. Qu'en est-il ?
Eh bien, comme Emmanuel Macron l'avait laissé entendre mi-janvier, des aménagements pourraient bientôt être possibles. Certains départements sont sur les starting blocks, comme le Loir-et-Cher, qui, selon nos informations, a déjà établi une carte du retour à 90 km/h. Ça pourrait concerner 500 km de route sur 3200, limitée depuis juillet à 80. Écoutez ce reportage de Victor Dolande.
Sur la D110, aucune ligne au sol pour séparer les deux voies de circulation. Un constat immédiat pour Christian Viroulot, directeur des routes du département du Loir-et-Cher.
On resterait à 80, la vitesse n'est pas adaptée.
2 kilomètres plus loin, on emprunte la D924, une route avec une meilleure visibilité.
Alors là, vous voyez tout de suite le changement de caractéristiques. Plus large, plus d'accotement. Naturellement, on peut rouler à 90 et c'est pour ça que sur cette route-là, nous, on va proposer de passer de 80 à 90 et de revenir comme c'était initialement.
Ces routes, Philippe les prend tous les jours et il l'avoue, il est en permanence en infraction.
On ne respecte pas la limitation. On essaie, mais on ne peut pas. On ne regarde même plus la route, on regarde le compteur.
Pour les défenseurs du 80 km/h, la vitesse est un facteur aggravant des accidents. Nicolas Perruchot, le président du département de Loir-et-Cher, ne le conteste pas, mais il attend encore qu'on lui démontre l'efficacité de cette loi.
Sur la première partie de l'année, on a eu un mort de moins que sur la deuxième partie de l'année. Donc quand on découpe l'année en deux, avant 80 et après 80, avant qu'on passe à 80, on a eu moins de morts.
Nicolas Perruchot n'attend qu'une chose, qu'Emmanuel Macron signe le décret pour pouvoir repasser ses routes à 90 km/h. Dans le Loir-et-Cher, Victor Dolande, Europe 1.
L'affaire Air Cocaïne, jugée à partir d'aujourd'hui devant une cour d'assises spéciale à Aix-en-Provence en 2013, près de 700 kilos de cocaïne avaient été saisis par la police dominicaine dans un jet privé sur l'aéroport de Punta Cana. 9 hommes doivent comparaître ce matin, dont 4 Français, notamment les 2 pilotes de l'appareil, Bruno Odos et Pascal Forêt, qui affirment qu'ils n'étaient pas au courant du contenu de leur cargaison.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani. Un peu de légèreté, ça fait pas de mal. On va partir en Bretagne. On a savouré un week-end ensoleillé. On vous dit tout dans quelques instants. Si vous êtes encore dans votre lit, c'est le moment. Là, faut sortir. Allez, c'est parti.
Il est 7h08, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Bonjour à tous, la suite du journal avec Hélène Zélani. On a beau être en février, la météo est tout sauf hivernale et ça fait du bien.
Et oui, température au-dessus des normales saisonnières, soleil éclatant, ciel bleu sans nuages. Vous avez peut-être eu la chance d'en profiter ce week-end. Une ambiance printanière qui fait le bonheur de ceux qui sont en vacances en ce moment, comme par exemple à Locronan en Bretagne où s'est rendu Pierre-Baptiste Vanzini.
Les maisons de granit sont enracinées dans le pays de Cornouailles. Daniel, venu de Saint-Nazaire, fait partie des tout premiers visiteurs à flâner sous ce soleil inattendu de février.
La météo dit que c'est des temps de mois d'avril. Et on est en février. Avec un temps comme ça, c'est magnifique. Et c'est l'idéal, quoi. Voilà, c'est tout.
Mélanie vient juste d'ouvrir sa jolie boutique et elle a le sourire en voyant débarquer les premiers vacanciers de l'année sous le soleil.
Au moins, ils lèvent les yeux, c'est bien. Contrairement à la pluie, enfin, ils ont le regard du coup beaucoup plus pétillant. C'est un lieu magique et puis la pierre, le soleil, enfin c'est une atmosphère, c'est une histoire en fait à travers tous ces murs et c'est beaucoup plus agréable avec un soleil.
Et c'est toute cette atmosphère justement que Caroline est venue découvrir en famille.
On retrouve avec les vieilles pierres, je montrais ça à mes enfants, ils sont partis là, comment c'était avant, la taille des maisons et tout ça. C'est vrai qu'on ne retrouve plus beaucoup d'endroits où il y a ça, la Bretagne ancienne.
15 degrés, pas un nuage ici dans le village coincé entre la presqu'île de Crozon et le cap Sizun. Tous les habitants le disent, c'est toujours comme ça en Bretagne. On ne demande qu'à les croire. Locronan, Pierre-Baptiste Vanzini, Europe 1.
Et maintenant, cette drôle de mission confiée aux éboueurs en Haute-Saône.
Oui, ils doivent évaluer la couverture des réseaux téléphoniques. Le conseil départemental a en effet décidé d'établir sa propre carte, indépendamment des opérateurs qui ont tendance à surestimer la qualité des liaisons. Et ce sont donc les camions poubelles qui sont équipés d'instruments de mesure. Arthur Elmbaché les a suivis à Servance, au nord de Vesoul.
Il collecte les déchets, ça c'est normal, comme tous les jours. En plus, ces jours-ci, avec son camion poubelle, Alexandre collecte les données dans ce joli coin de moyenne montagne où aujourd'hui encore passer un coup de fil avec son portable n'est pas donné à tout le monde.
Là, donc, on est sur le plateau des Grioux, là, au cœur des militants en fait.
C'est beau, mais est-ce qu'il y a du réseau ?
Ça. Là, par exemple, là, on va rentrer dans cette rue-là. Vous voyez, à partir du CD le passage jusqu'à la maison, là, il n'y a pas de réseau. Là.
Et alors c'est quoi ce gros sac noir là et tous ces portables qui clignotent ?
Donc c'est la sacoche de 11 téléphones, Orange, Bouygues, Free, SFR, 2G, la 3G et la 4G. pour voir justement où c'est que les téléphones ne captent pas encore.
Les éboueurs passent partout, ou presque, donc ça donne des cartes très précises où apparaissent des zones blanches ignorées des opérateurs, constate Rachid Mamérine de Haute-Saône Numérique.
L'avantage, c'est que maintenant, on a des preuves. Donc ça veut dire que là, l'administré pourra aller sur le site, voir où il y a un bon réseau et choisir. Parce que ces cartes-là, on va les rendre publiques. Donc les opérateurs commenceront à perdre des clients. Et quand un opérateur perd des clients, il améliore obligatoirement son réseau.
La vraie carte de la couverture mobile en Haute-Saône sera en ligne l'été prochain. Servance, Arthur Enbaché, Europe 1.
Et puis on saura aujourd'hui si le film de François Ozon, Grâce à Dieu, peut sortir en salle dès mercredi, récompensé ce week-end au Festival de Berlin. Ce film sur la pédophilie dans l'église suit trois victimes du père Prénat. L'un des avocats du prêtre a demandé un report car l'affaire n'a pas encore été jugée.
J'ai vu le film, il est puissant. On en parlera dans les jours à venir sur l'antenne d'Europe 1.
La matinale d'Europe 1.
Nico Saliagas.
Il est 7h11, l'heure de retrouver Carole Ferry sur le terrain.
C'était Nicolas. Le journal d'Hélène Zélani. Vous êtes où, Carole, ce matin?
Eh bien écoutez, je suis dans le jardin Ilan Halimi à Paris. Ilan Halimi, ce jeune garçon torturé à mort parce qu'il était juif. Et si je suis là, eh bien c'est pour vous parler du prix Ilan Halimi qui récompense un projet de lutte contre l'antisémitisme. Cette année, c'est le collège Le Clopouy à Dijon qui a gagné. Alors je suis allée rencontrer ces jeunes dans leur salle de classe, Julie, Paul, Constantin. Ils ont 15 ans. Leur projet s'appelle Comprendre hier pour agir et réagir aujourd'hui.
Moi, ça a changé ma vision du monde. J'ai encore certains souvenirs de certaines photos de juifs qui étaient dans des camps de concentration, voir l'état dans lequel ils étaient. Et ça, je suis marqué par ça.
Moi, ce qui m'a notamment marqué, c'était les témoignages des rescapés, le fait que les personnes l'aient vécu. Quand on sait que ces personnes-là, dans 10-20 ans, elles pourront plus en parler à d'autres gens, on prend une responsabilité. On se sent passeur de mémoire.
Si des génocides ont eu lieu, c'est parce qu'il y a des petits actes de la vie au quotidien qui ont mené à ces grands génocides au final, et c'était à nous d'agir dès le début pour empêcher des crimes comme ça.
Ce projet, il a touché 120 élèves. Ça peut se répandre après sur tout un établissement, tout un quartier, une ville, etc.
Et alors, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens?
D'arrêter d'être haineux. Toujours vérifier ce qu'on dit, ce qu'on lit.
Je pense qu'on en est ressorti grandi du projet, parce qu'on a changé de mentalité vis-à-vis du monde qui nous entourait. Les préjugés, les blagues racistes, etc. Je ne sais pas comment dire, ça nous a fait grandir mentalement un peu ce projet.
Voilà, ça fait grandir, ça fait réfléchir, ça fait prendre conscience de ce que peut être la haine, la bêtise humaine. Mais derrière, faut, j'imagine, Carole, un immense investissement de la part des enseignants.
Je vous confirme, c'est un travail titanesque de deux professeurs d'histoire, Ophélie Truchot et Solène Lévesque. Elles ont donc fait venir des rescapés au collège, emmené les enfants sur des lieux de mémoire de génocide. Elles ont aussi suivi une formation spécifique.
Il faut être en capacité d'expliquer un processus génocidaire, en quoi consiste un discours négationniste. Et il faut être armé quand on se retrouve face à des élèves qui peuvent être en voie de radicalisation. On n'a pas le droit à l'erreur. Ça demande un très très gros investissement.
On a des fois des moments de d'essoufflement. On se dit, voilà, on fait tout ce travail-là. Et puis derrière, on tague encore des croix gammées, on vandalise des armes de la paix finalement. Et puis après, on se dit, non, allez, on y va, on reprend le combat. Notre travail justement, c'est ça, c'est de faire disparaître ces croix gammées sur les devantures de boutiques.
Des enseignantes fières de se dire que pendant que certains scient des arbres, les arbres, vous savez, plantés en mémoire d'Ilan Halimi, eh bien leurs élèves apprennent à s'indigner face à des croix gammées.
On s'indignait aussi, mais avec des actes significatifs, pas seulement symboliques, des actes au quotidien. Voilà le travail fait par ces enseignants. Merci Carole Ferry pour ce reportage et très intéressant et intense ce matin.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À suivre l'édito Écho avec Nicolas Barré. On fait le bilan de la prime Macron aux salariés.
Oui, parce que vous savez quoi, 15 jours avant Noël, Emmanuel Macron avait évoqué cette prime. Et ben, je vais vous faire le bilan de où on en est 2 mois après.
Elle a été versée ou pas? Suspense.
Vous allez voir.
7h20, le sport c'est bon pour le moral. Et s'il pouvait aussi remplacer certains médicaments? Enquête très sérieuse, signée Mélanie Gomez dans Europe 1 un peu plus loin.
Mais reste avec nous sur Europe 1, il est 7h14. Il est 7h15, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
L'un des gilets jaunes qui a insulté Alain Finkielkraut samedi à Paris a été identifié. Il était déjà connu pour des outrages aux forces de l'ordre. Une enquête est également ouverte après le caillassage d'un fourgon de police à Lyon. La vidéo filmée de l'intérieur du véhicule montre la violence des manifestants et l'angoisse de la jeune adjointe de sécurité au volant. Le procès de l'affaire Air Cocaïne s'ouvre ce matin devant une cour d'assises spéciale à Aix-en-Provence. Une affaire de trafic de drogue internationale. 9 personnes comparaissent, dont 4 Français. Football, le Paris Saint-Germain peut une nouvelle fois dire merci Kylian Mbappé puisqu'il a marqué le but de la victoire hier soir à Saint-Etienne en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Score final 1-0.
Europe 1. Il est 7h16. Nico, c'est l'heure de retrouver Nicolas Barré pour l'édito Écho.
Nicolas Barré, c'est le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Et on se souvient, hein, c'était le 10 décembre dernier. Le mouvement des Gilets jaunes battait son plein. Emmanuel Macron prenait la parole et il demandait aux entreprises de verser des primes à leurs salariés. Et le bilan est...
Eh ben, écoutez, je peux vous livrer ce matin le résultat d'un sondage qui a été fait par les directeurs de ressources humaines, donc ceux qui sont vraiment en première loge en matière de rémunération. Sondage qui montre que 74% des entreprises ont décidé de verser cette prime. Alors c'est très important, à titre de comparaison, la prime Sarkozy en 2011 avait été versée par seulement 11% des entreprises. Et vous savez quoi ? Eh bien, les PME sont parfois plus généreuses que les grands groupes.
Alors elles ont versé combien ces entreprises ?
Alors pour la plupart, elles ont versé en moyenne 532 € par salarié.
Oui.
Alors parmi les plus généreuses sont donc les entreprises de moins de 50 salariés. Là, on arrive à 687 € en moyenne. Alors certes, il faut rappeler qu'au-delà de 50 salariés, il y a des accords de participation et d'intéressement souvent. Donc ça explique peut-être la différence. Ça explique aussi pourquoi dans les entreprises de 50 à 300, c'est un peu moins. C'est 530 €. Entre 300 et 1000 salariés, on est à 467 €. Et puis... on monte à 583 € pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Et les très grands groupes, je l'ai dit, sont pas forcément plus généreux. Ça dépend beaucoup de leur situation économique. Par exemple, dans la distribution, qui a été très impactée par la crise des Gilets jaunes, eh bien, on est un peu moins généreux. Carrefour, Auchan, par exemple, c'est 200 € par salarié. À l'autre bout du spectre, Total a versé 1500 € à tous les salariés, ce qui est très rare, puisque dans la plupart des entreprises, en fait, on se contente de verser de la prime aux salariés qui gagnent moins de 3 fois le SMIC.
Mais est-ce que cette prime était une bonne réponse, ou en tous les cas significative face à la crise des Gilets jaunes ?
Alors significative, sans doute pas. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'autres mesures, 11 milliards d'euros, je vous le rappelle. La seule vraie réponse, en fait, c'est de favoriser la création de richesses et la croissance. Or, aujourd'hui, le tort causé par cette affaire des Gilets jaunes à l'économie est considérable. Plus de 72 000 personnes en chômage partiel, plus de 4 900 entreprises touchées par ce chômage partiel, c'est les chiffres du ministère du Travail. La CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises alerte d'ailleurs depuis 3 mois sur la situation dans le commerce. Et c'est pas effectivement avec ce mouvement qui s'éternise et qui se radicalise qu'on distribuera demain plus de primes et de salaires. Bien au contraire.
Merci pour cette analyse. C'était Nicolas Barré pour l'édito Écho.
Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, consacré ce matin au sport comme nouveau traitement contre certaines maladies chroniques.
Bonne nouvelle pour les 20 millions de Français, un Français sur 4 qui souffrent d'asthme, de diabète ou encore d'arthrose. Eh bien cette fois, il ne s'agit pas de dire que le sport c'est bon pour la santé, non. Cette fois on peut le dire et on le sait. Les experts de l'INSERM viennent de publier un rapport dans lequel ils affirment que l'activité physique peut agir concrètement comme un médicament avec des bénéfices absolument positifs. Bonjour Mélanie Gomez, vous êtes spécialiste santé à Europe 1.
Bonjour.
Ces experts se sont intéressés à 10 maladies chroniques et ils montrent que le sport permet d'éviter certaines hospitalisations, des douleurs et bien plus encore.
Et oui, par exemple dans le cancer, si on prescrit du sport dès le début, adapté bien sûr à l'état du malade, eh bien cela permet de réduire de 20 à 40% la fatigue pendant les soins et même après la fatigue qui est le symptôme le plus fréquent. Dans le cancer du sein et du côlon, ça va même plus loin. Bouger réduirait le risque de récidive, voire même de mortalité. Dans le diabète, ça permet de faire diminuer les injections d'insuline et chez les cardiaques, la pression artérielle et puis, plus spectaculaire encore, le sport agit sur la dépression. C'est maintenant prouvé, explique le psychologue Grégory Nino.
Un programme d'activité physique de 3 séances par semaine pendant 3 mois va avoir un effet aussi efficace qu'un antidépresseur ou qu'une psychothérapie. Donc au même niveau et avec des effets secondaires moins importants pour les patients qui ont un trouble dépressif léger à modéré.
Alors, à quelle fréquence il faut le faire ce sport ? Parce que c'est important de savoir pour que ça agisse sur la maladie. Eh bien, que ce soit dans l'asthme, l'arthrose, après un AVC ou un infarctus, l'ordonnance de ces experts est la même. Il faut bouger au moins 30 minutes par jour, comme tout le monde. Mais en plus, ces patients doivent pratiquer 3 fois par semaine un sport de leur choix, adapté à leur état. Voilà, c'est ça, 3 fois. Alors, ça peut être de la danse, du tai chi, n'importe quoi, du moment que c'est fait avec plaisir. Et ça, c'est primordial. Hein, parce que quand on est malade chronique, cette prescription de sport, c'est pas pour 2 ou 3 mois, c'est pour la vie.
C'est Bernard Tapie sur notre antenne qui nous disait il y a quelques semaines qu'après ses chimiothérapies, il allait faire du vélo. Mais la question est, est-ce qu'on prend des risques quand on fait du sport alors qu'on est de toute manière affaibli ?
Alors vous avez raison, hein, c'est pour ça que l'INSERM recommande de ne pas s'y mettre tout seul mais de faire appel à des spécialistes pour se faire guider. Alors pour l'instant, quelques structures existent sous forme associative ou dans le privé, mais elles ne sont pas nombreuses. Par exemple à Paris, j'ai visité un centre qui s'appelle Mon Stade. Là-bas, il y a des athlètes de haut niveau et des malades qui s'entraînent côte à côte. Des médecins et des coachs élaborent un programme pour chacun et ça marche. Vous allez l'entendre avec une malade super en forme. Elle s'appelle Sena. Elle a 37 ans et deux maladies chroniques, un problème de thyroïde et de l'hypertension. Ça fait 5 ans qu'elle fait du sport sur ordonnance.
J'ai perdu une dizaine de kilos, mais c'est pas tant ça, c'est plus au niveau forme. Il y a quelques années, m'inscrire à une course, faire un petit peu de boxe, réussir à faire du gainage pendant une minute, c'est des choses que j'avais jamais envisagées. Je viens tous les jours pratiquement, tous les midis. Mon hypothyroïdie s'est améliorée et au niveau de la tension, on m'a baissé le traitement il y a 2 ans.
Alors le problème, c'est que ce type de programme personnalisé, ça coûte assez cher, 800 euros parce qu'on est dans le privé.
D'accord, mais si c'est considéré comme un médicament, ça devrait être remboursé.
Alors c'est tout le problème, effectivement. Voilà, depuis 2016, la loi a autorisé les médecins à prescrire du sport sur ordonnance. Déjà, en pratique, peu le font, mais en plus, ça n'a pas beaucoup de sens parce que ce n'est pas remboursé du tout par l'assurance maladie. Néanmoins, certaines mutuelles prennent parfois une partie en charge ou alors des groupes associatifs comme Ciel Bleu ou La Camille proposent des séances de sport santé à des prix abordables pour les personnes âgées notamment, environ 5 euros la séance.
Faites du sport, le sport comme médicament pour le corps, pour l'esprit, qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade. Bougez, faites du sport. Oui Mélanie ?
Oui, attendez, alors Nico, dans cette salle de sport, j'ai quand même croisé un sportif un peu particulier, un certain Denis B qui avait un message pour vous.
Allez-y.
Nikos, si tu veux venir ici, moi je te challenge sur n'importe quelle machine de cette salle de sport. Hein, donc je t'attends, mets ton short, ton t-shirt et on y va ensemble.
Ah, il me chauffe le brognard. C'est vrai qu'il lâche pas l'affaire, papa. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1 pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.
Et que pensez-vous de ce sujet ? Faites-vous du sport pour vous garder en bonne santé ? Dites-le nous avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre l'innovation du jour avec Anissé Mbida. On parle de quoi ce matin, Anissé ?
On va se chauffer les cordes vocales avec un petit outil magique qui empêche de chanter comme une casserole, qui réajuste tout ce que l'on chante.
Même quand on chante faux ?
Même quand on chante faux.
Mais ça va fermer la boutique de The Voice.
C'est ça.
Non, parce qu'il faut avoir une belle voix dans The Voice quand même.
D'accord, ok.
Là, c'est juste chanter
juste. Pour m'assurer. À tout de suite.
Merci d'écouter Europe 1. Il est 7h23. Un bon réveil sur Europe 1. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissé Mbida, Nikos.
Est-ce que vous chantez au réveil, chers amis qui nous écoutez ce matin ? Peut-être dans la voiture en allant travailler. Alors, c'est la douche ?
Sous la douche.
À 2h du matin, vous.
Ah non,
vous...
Bah non, parce que je réveille tout le monde, là, effectivement.
Je sais pas, on n'a pas tous. On n'a pas la voix de Christophe Maé, de Lara Fabian, mais on aime bien.
Céline sous la douche.
C'est pas possible.
C'est ça.
Mais on aime bien faire des karaokés en famille. Et vous, apparemment, Anissé Mbida, vous auriez trouvé ce matin un outil qui va faire du bien aux oreilles parce qu'il nous évite de chanter faux.
Oui, c'est pour Céline, ça. C'est un outil qui va décomplexer tous ceux qui chantent comme des casseroles.
On le met où l'outil, juste que je comprenne.
Sympa.
Vous allez voir. D'abord, on va écouter ce karaoké. Alors écoutez, ça pique un petit peu les oreilles.
Allez-y. Oh, bah c'est clairement de la merde, pardonnez-moi.
C'est dur.
C'est nul. C'est nul. Ah ouais, tu vas pas aller loin comme ça, papa.
Et bah maintenant, écoutez la même prestation, mais retraitée cette fois par un ordinateur.
Ok. C'est un peu mieux.
C'est plus agréable. Hein.
C'est dingue ça. Il a réadapté la voix.
Exactement. Il analyse la voix, il réajuste automatiquement sa hauteur, exactement comme le fait l'autotune. Vous savez, cet outil qu'utilisent les chanteurs pour rendre leur voix
un peu plus juste. Mais en général, l'autotune, ça donne une voix de robot. On l'entend.
Oui,
il y a des stars qui l'utilisent. Hein,
oui, avec un petit effet vibrato qu'on trouve dans beaucoup de morceaux en ce moment, l'effet vibrato de l'autotune.
Ça, voilà.
Voilà.
C'est Kenji là.
Non, c'est l'Algerino.
Ah oui, ah, c'est bébé. Bien sûr. Va bene.
Et bien justement, c'est le tour de force qu'ont réalisé les chercheurs de l'université de l'Indiana aux États-Unis. Utiliser les notes déjà chantées pour faire la correction et donc avoir un autotune cette fois plus naturel, qui ne trafique pas la voix de celui qui chante. Donc on a peut-être trouvé un moyen de distinguer enfin toutes ces voix. Vous parliez de c'est l'Algerino, on pensait que c'est peut-être soprano ou n'importe quel autre chanteur. Et bien tout le monde pourra chanter juste sans être obligé d'avoir cette voix de robot qu'on a en ce moment.
Là, c'est Rapta, le nouveau morceau de Huss, qui cartonne chez les jeunes. et qui fait usage, comme souvent, de l'autotune. Ça marche aussi en direct pour un karaoké, par exemple, parce que c'est en post-production en général qu'on peut récupérer les notes. Mais quand on chante en direct, on peut chanter faux en vrai, à travers le micro, faire en sorte que cela s'entende juste.
Et ben ça, c'est la prochaine étape. Hein. C'est pas encore cette version, c'est la prochaine version qui va arriver, parce que les chercheurs ont travaillé avec une application qui s'appelle Smule. Smule, c'est une application de karaoké qui est extrêmement célèbre. Elle fonctionne en direct. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, hein, que tout le monde puisse enfin chanter juste avec sa propre voix, sans éclater les tympans de ses camarades, et même sous la douche avec son téléphone portable.
C'est un peu injuste pour celui qui chante juste. Oui. En vrai.
Oui, mais ça va finir par se voir ou s'entendre de toute façon.
Mais ça évite la pluie.
L'innovation avec Anissé Mbida tous les jours sur Europe 1. Merci.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, on va retrouver Céline Kallmann pour le journal. Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol.
J'ai connu Laurent Cabrol dans une autre vie. C'est l'homme qui tenait le plus longtemps le Mexico. Vous vous souvenez de ça?
Mexico.
Allez-y. Je vous ai connu un peu plus long. Hein. En fait, il va faire beau aujourd'hui, comme le Mexico.
Oui, il va faire beau. Comme à Mexico, il va faire un temps très agréable pour beaucoup d'entre nous. Je dirai tout à l'heure pourquoi ce beau temps nous lamente un petit peu. On a réellement peur de ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Bah parce qu'on a besoin de pluie. Vous savez, la pluie, c'est maintenant qu'elle doit arriver.
Mais
c'est
il
maintenant.
A plu beaucoup avant.
Ben oui, mais c'est pas suffisant. Il faut encore remplir les nappes.
Pour les nappes phréatiques.
Oui, pour qu'elles se remplissent bien, il faut que la végétation soit au repos. C'est le cas en ce moment. Dès que la végétation repart, la moindre goutte sert à alimenter les plantes et donc elle ne va pas dans le sous-sol. C'est la raison pour laquelle on a besoin de pluie. Aujourd'hui, il y a très très peu de pluie. Il y en a un petit peu sur la Bretagne, sur le Cotentin, sur les côtes de la Manche, mais c'est vraiment tout. Ailleurs, il fera un temps beau, un temps très agréable, le Nord, la région parisienne, les régions de l'Est, enfin bref, toute la France, excepté toujours le Languedoc-Roussillon, nous avons des entrées d'air marin, mais c'est peu de choses. Donc, un beau temps agréable, bien sûr, pour l'ensemble de ceux d'entre vous qui rêvent de ce type de temps, avec des températures de 12 à 20 degrés, 20 à Agen, 18 à Clermont, 16 à Toulouse, 14 à Paris, c'est pas mal, hein, 13 degrés à Nancy et Lille, et 12 degrés à Sedan, à Deauville et à Langres. Nous verrons donc tout à l'heure quand ce beau temps va-t-il cesser.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Alors je sais, oui, les nappes phréatiques, mais bon, un peu de soleil, ça fait du bien moral en ce moment.
Ça c'est vrai.
Merci.
On vous retrouve, Laurent, juste avant le journal de 8h.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1. Nous sommes le lundi 18 février, les 7h30.
Le journal est présenté par Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Encore des images effrayantes ce week-end lors de rassemblements de gilets jaunes. Cette agression antisémite dont a été victime le philosophe Alain Finkielkraut, on y reviendra dans un instant. Et puis cette vidéo d'une violence inouïe, celle d'un fourgon de police en train de se faire caillasser à Lyon.
On est pris à partie par les manifestants. Vas-y, avance.
Voilà cette vidéo.
C'est pas grave.
Filmée de l'intérieur, diffusée sur les réseaux sociaux par un syndicat de police. On entend les pavés se fracasser sur la carrosserie du véhicule. On entend aussi la peur et les pleurs de la conductrice et le sang-froid du passager. Il s'appelle Olivier. Cela fait 20 ans qu'il travaille dans la police et il témoigne ce matin sur Europe 1.
Dès qu'ils nous ont vus, ils nous ont foncé dessus et les pavés ont commencé à pleuvoir. On a eu peur de rester bloqués.
Est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire ou s'en rapprochant dans votre carrière de policier?
Un degré comme ça de défoulement sur les forces de l'ordre, je crois que c'est la première fois dans ma carrière que je subis ça. Et je ne sais pas comment ça aurait tourné si effectivement on était resté bloqué.
Vous pensez à un moment dégainer votre arme de service?
Non.
À un moment?
Non, en aucun cas. Le but c'était de nous extraire, on avait un moyen de le faire, on l'a fait.
Vous retournez travailler aujourd'hui?
Oui, je travaille, je suis au travail aujourd'hui.
Normal?
Oui, normal. C'est mon métier, c'est ce pourquoi je suis payé et j'aime faire mon métier, donc je suis au travail.
Un témoignage d'Olivier qui a donc gardé son sang-froid face à la violence de certains gilets jaunes. Une enquête a bien sûr été ouverte.
Et une enquête également après l'agression antisémite, agression verbale contre le philosophe Alain Finkielkraut.
Oui, insulté dans les rues de Paris, les mots sont haineux. Sale juif, rentre chez toi en Israël. Plusieurs vidéos ont été tournées, plusieurs gilets jaunes incriminés. L'un identifié mais pas encore arrêté. Il est en tout cas déjà connu pour outrage aux forces de l'ordre. Face à ces débordements inacceptables, certains gilets jaunes condamnent, comme cette femme rencontrée par Frédéric Michel à Saint-Égulf dans le Var.
On perd en crédibilité. C'est même épuisant parce qu'en fin de compte, le message du départ, il est effacé par ce genre d'attitudes qui sont absolument mais inqualifiables et irrépréhensibles. Ce genre de comportement, en fait, exaspère les populations en disant « oui, non, mais les gilets jaunes, ils sont violents ». Alors qu'en fait, tout ce qui est de positif derrière, c'est occulté. Évidemment, il y en a certains qui sont violents. Mais ça, malheureusement, c'est le reflet de la population nationale.
Un propos recueilli par Frédéric Michel pour Europe 1.
Et à 7h45, Bernard-Henri Lévy sera mon invité sur Europe 1 pour parler de ce qui s'est passé ce week-end.
Demain, 14 partis politiques ont appelé à des rassemblements partout en France pour dire non à l'antisémitisme. Et samedi, lors de la manifestation de Gilets jaunes dans les rues du Mans, quelques casseurs cagoulés se sont attaqués à des vitrines. Celle de la rédaction de Ouest France a été vandalisée. Des individus ont ensuite forcé l'accès, sont entrés à l'intérieur des locaux. Ils en sont aussitôt ressortis après avoir commis des dégradations.
Europe 1, il est 7h33.
C'est aujourd'hui que s'ouvre à Aix-en-Provence le procès de l'affaire dite Air Cocaïne.
Oui, il y a 6 ans, 700 kilos de cocaïne en République dominicaine étaient saisis dans un jet privé. 9 accusés se retrouvent devant la cour d'assises spéciale, notamment le commanditaire présumé du trafic, mais aussi un douanier et les deux pilotes, Pierre de Cossette.
On a découvert leur visage à la télévision dominicaine, une nuit de 2013. Arrêté par la police, aligné devant le Falcon 50 qui s'apprêtait à décoller pour Saint-Tropez et filmé comme des lapins pris dans les phares. Bruno Odos et Pascal Forêt, quinquagénaires, anciens pilotes de chasse passés à l'aviation d'affaires et leurs deux passagers, français aussi, dans le jet, 680 kilos de cocaïne. Coup monté, mise en scène, se défendent alors les quatre suspects, loin d'imaginer qu'en France, la justice s'intéresse aussi à 2 autres vols transatlantiques, dont une livraison suspecte déjà à l'aéroport de Saint-Tropez. Les deux passagers ont été condamnés sur place à 20 ans de prison. L'un d'eux a pu rentrer en France pour purger sa peine en raison de graves soucis de santé. Quant aux deux pilotes, Forêt et Odos, ils ont été exfiltrés de République dominicaine lors d'une opération commando en bateau alors qu'ils étaient en liberté surveillée. Leur argument, ils n'avaient pas à se mêler de la marchandise qu'ils transportaient. Les juges d'instruction français sont au contraire convaincus qu'ils savaient parfaitement ce que contenaient ces 26 valises embarquées dans leur Falcon. À leur sujet, un collègue dira aux enquêteurs où ils sont neuneux, où ils sont dans le coup.
Pierre de Cossette pour Europe 1. C'est cet après-midi que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris va rendre sa décision sur un éventuel report de la sortie du film de François Ozon, Grâce à Dieu, un film qui traite de la pédophilie et du silence de l'institution catholique. La présomption d'innocence est au cœur du débat sur le report ou non de ce film.
L'étonnante confession du footballeur Adil Rami hier soir dans le Canal Football Club.
Oui, le défenseur de l'OM et des Bleus a confié avoir fait un burn-out après la Coupe du Monde en Russie en juillet dernier. Adil Rami a eu beaucoup de mal à se remettre mentalement de l'aventure russe.
Ouais, j'ai eu le burn-out, exactement. J'en ai discuté, j'ai essayé de trouver des solutions. Je savais que j'étais pas à 100% mentalement et physiquement. C'est-à-dire que même l'odeur de la pelouse, je la sentais même plus. De vouloir taper les attaquants, j'avais même plus envie de les taper. Quand je me forçais, mais j'y arrivais pas. Parfois, j'ai été même agressif vis-à-vis des gens qui me demandaient des photos, quand on me filmait sans me demander ou autre chose. Mais aujourd'hui, je suis content. Je suis content d'avoir été blessé et être aussi longtemps de côté, en partie parce que je me dis qu'aujourd'hui, enfin, là, j'ai faim.
Il a faim, Adil Rami, hier soir sur Canal+. Il y en a un autre. Il y en a un autre qui avait très faim hier soir, c'est Kylian Mbappé qui a permis au PSG.
Il a pas eu de burn-out, lui.
Non, qui a permis au PSG de s'imposer. Il est plus jeune aussi, face à Saint-Etienne 1-0 en clôture de la 25e journée de Ligue 1.
C'était le journal de Céline Kallmann ce matin sur Europe 1.
Et vous souhaitez réagir, faites-le en nous appelant au 39-21, 50 centimes la minute ou avec Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et notamment après le passage habituel de Jean-Michel Apathy qui provoque toujours des débats. Ce matin, on va parler de quoi, mon cher Jean-Michel ?
Mais nous allons bien sûr parler de l'agression antisémite dont a été victime Alain Finkielkraut et il faut s'interroger. Les antisémites, samedi, avaient un gilet jaune et ça, on ne peut pas éviter, évidemment, d'analyser les raisons pour lesquelles les antisémites ont un gilet jaune.
Axel de Tarlet, juste après, pour parler d'économie et pour parler de Nestlé.
Oui, et surtout la fin des grandes marques dans l'agroalimentaire. C'est un changement radical pour ces géants de l'agroalimentaire qui doivent donc se réinventer.
Se bien se réveiller avec Apathy Tarlet, c'est dans un instant sur Europe 1, tout de suite.
Il est 7h36. Il est 7h37, Nico Saliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Alors on va en parler dans quelques instants avec Bernard-Henri Lévy. Les réactions n'ont pas cessé ce week-end après l'agression antisémite, l'agression verbale dont a été victime samedi le philosophe Alain Finkielkraut. Et pour vous Jean-Michel, cette émotion est justifiée ?
Ah oui, elle est justifiée. Il est nécessaire de réfléchir à ce qui s'est passé samedi. Parce que ce qui s'est passé samedi est vraiment très, très important. D'habitude, en France, l'antisémitisme est un acte caché, honteux. Nocturne, souvent, on peut taguer une vitrine ou bien souiller un portrait, couper un arbre. On a vu ça il y a quelques jours. Mais samedi, ça s'est produit au grand jour, en plein soleil. C'était filmé. On a vu la haine. Et on a vu aussi l'innocence de celui qui était insulté. Et donc, du coup, cette scène d'antisémitisme, c'est très rare de la voir, d'entendre les insultes antisémites.
C'est pour ça que ça choque.
Mais bien sûr, bien sûr. On se dit, mais c'est pas possible, pas en France, pas aujourd'hui. C'est pour ça que l'émotion est tellement vive encore ce matin. Nous n'en revenons pas d'avoir vu ce que nous avons vu. Et bien entendu, pour l'immense majorité des Français, nous refusons cela. Mais il y avait samedi autre chose, c'est que tous les antisémites, tous ceux qu'on a vus, avaient un gilet jaune sur les épaules. Alors, il ne s'agit pas de dire que tous les gilets jaunes sont des antisémites, bien sûr.
Voilà.
Ça, ce serait stupide, idiot et insupportable. Mais tous les antisémites avaient un gilet jaune. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela ? Il faut en revenir aux sources de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Le 17 novembre, c'est un mouvement de revendication du pouvoir d'achat. Et dans une démocratie, c'est une revendication légitime. Et puis très vite, ce mouvement dérive, la violence, une attitude ambiguë vis-à-vis de la violence, un discours anti-élitaire qu'on a rarement entendu dans la France avec cette puissance, sans doute depuis les années 30, accompagné d'un anti-parlementarisme violent. Depuis les années 30, justement, jamais autant de parlementaires n'avaient été agressés en France. Les parlementaires, ce n'est pas les martiens, ce sont des citoyens français qui prennent en charge un bout de l'intérêt commun. On a toléré tout cela. On a toléré les discours de gens qui disaient « il faut marcher sur l'Élysée ». On a toléré ceux qui, sur les ronds-points, pendaient de manière symbolique l'effigie du président de la République. Eh bien, tout cela, évidemment, a constitué un réceptacle pour les pires idéologies. Et l'antisémitisme s'est senti bien au cœur du mouvement des Gilets jaunes, et il n'en a pas été chassé, parce que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas organisé, n'a pas de tête, s'en glorifie, mais du coup, il accepte tout et n'importe quoi, et dit tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, l'alternative est simple, soit les Gilets jaunes se ressaisissent, je ne sais pas ce que ça veut dire, ils s'organisent, ils font en sorte que dans les manifestations désormais, si manifestations il y a, parce que ras-le-bol aussi des manifestations. Si manifestations il y a, il n'y a plus d'antisémitisme dans les manifestations. Ou alors ça continue comme ça, dans le naufrage moral et intellectuel le plus complet. Ce mouvement n'a plus rien à voir avec la République. Ça continue comme ça et ce sera sans doute l'un des pires mouvements que la République ait engendré. Et là, son année très triste. Au début, on comprenait les Gilets jaunes. Aujourd'hui, on n'a plus envie de les entendre.
Jean-Michel Apathy, tous les jours sur Europe 1. Axel de Tarlé, on va changer de registre. On va aller dans le Zoom Echo. Et on lit que Nestlé cherche à vendre la marque Herta, parce que le géant suisse veut se recentrer sur le bio et les marques locales.
Voilà, alors Herta, hein, c'est la marque alimentaire la plus achetée en France. Hein. Ce sont donc les saucisses de Francfort, du jambon, de la charcuterie, des croque-monsieur. Herta qui est très présent en France, qui est aussi présent en Allemagne, en Belgique, en Royaume-Uni, en Irlande. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'Herta, c'est l'archétype de la grande marque internationale à succès. Sauf que ce qui est nouveau, c'est que Nestlé, qui est le numéro un mondial de l'agroalimentaire, Nestlé ne veut plus de Herta dans son portefeuille. Pourquoi ? Parce que Nestlé dit « le consommateur est en train de changer ». Ces grandes marques internationales standardisées qui faisaient autrefois le succès de Nestlé, elles sont aujourd'hui perçues au mieux comme fades et sans saveur, au pire comme mauvaises pour la santé, car trop chargées en sel, trop chargées en sucre, trop chargées en nitrites, bref, trop industrielles. Avec tous ces scandales alimentaires, le consommateur veut désormais du local, du près de chez soi, du fait maison. Vous voyez, c'est intéressant. Le progrès, ça n'est plus l'industrie, c'est plus les grandes marques. Le progrès, c'est le petit producteur à l'ancienne dans notre coin. Alors effectivement, cette nouvelle façon de voir change complètement la donne, change complètement les règles pour les géants de l'agroalimentaire. Et alors l'exemple type de l'entreprise qui doit se réinventer dans cet univers, c'est Coca-Cola. Dans une interview aux Échos, c'est passionnant, le patron de Coca, il explique, il ne cache pas son désarroi, il dit « autrefois, pour moi, la vie était simple. Ouais. Coca, c'était un seul produit, une seule bouteille, une seule publicité mondiale, le tout piloté depuis les États-Unis. » Eh bien, ce monde simple, standardisé, est terminé. Maintenant, le consommateur veut de la diversité, de l'authentique et du local.
Il faut qu'ils se réinventent, en fait. Voilà, dans l'agroalimentaire, ils doivent faire du sur-mesure, en fait, à chaque fois, c'est ça ?
Et voilà. Et alors, c'est très compliqué. Donc, Coca se réinvente, se diversifie tous azimuts. Je suis sûr que vous ne le soupçonnez pas, mais Coca s'est lancé dans le thé. Coca s'est lancé dans le café. Ils ont racheté la chaîne Costa Café. Ils se lancent dans l'eau minérale. Ils ont racheté Chaudfontaine. Coca lance maintenant en douce des centaines de produits chaque année. Alors, on ne le voit pas parce que jamais le nom Coca-Cola n'apparaît. La même chose pour Unilever. Unilever, c'est le géant néerlandais, alors qui voit bien que ses plats industriels marchent de moins en moins. Et donc, pour coller face à cette nouvelle demande d'authentique, je voyais tout à l'heure d'ailleurs, Nikos, vous aviez une banane à côté de chez vous. Il y a quelques années, vous auriez eu une barre chocolatée, c'est vous vrai. Voyez. Et donc, pour
c'est
coller.
C'est Thomas Soto qui m'a laissé ses manies.
Voilà, donc pour coller face à cette soif d'authentique, donc de vraies bananes plutôt que de barres chocolatées, eh bien, que vend Unilever ? Il écoute le consommateur, il regarde ce qu'on fait. Et donc, Unilever, je vous le mets dans le mille, vend maintenant des produits frais emballé, alors étiqueté Unilever. Alors, il rajoute quand même une recette et puis il dit c'est parfaitement dosé. Comme ça, vous aurez tous les ingrédients chez vous pour vous faire un riz ou un curry à l'indienne ou une soupe de pois cassé. Mais voyez, Unilever est en train de réinventer les recettes de nos grands-mères. Ouais. La limite, c'est qu'effectivement, face à cette demande d'authentique et de local, on se demande quelle est la légitimité, quelle est la plus-value de ces géants de l'agroalimentaire qui, dans leur gène, incarnent le contraire du local. Ils incarnent la mondialisation et le goût unique. C'est quand même paradoxalement compliqué pour
mais
eux.
Mais ce que j'entends dans votre analyse, c'est que la diversification, c'est un semblant de garantie quant à l'incertitude de l'avenir. Avoir voilà, plusieurs cordes à son arc, en fait, c'est aussi un peu ça.
On revient dans son village.
Merci beaucoup, Axel de Tarlet, pour le Zoom Echo.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, Bernard-Henri Lévy sera avec nous en direct par téléphone. Que dit notre société sur cette recrudescence, sur ces actes antisémites, ces agressions verbales ou symboliques ? Comment y répondre ? Interview à ne pas rater juste après ça, tout de suite.
Et si vous souhaitez réagir sur ce sujet sensible, si vous avez des questions, écrivez-nous avec le hashtag Europe 1. Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Une enquête a été ouverte après l'agression antisémite dont a été victime le philosophe Alain Finkielkraut samedi. Un homme a été identifié. C'est celui qu'on voit dans les images. Il est déjà connu pour des outrages aux forces de l'ordre et selon le journal Le Parisien, il évoluerait dans la mouvance radicale islamiste depuis 2014. Il n'a pas été arrêté. Ou encore, tout du moins. Le parquet de Lyon a aussi ouvert une enquête après les violences subies samedi par des policiers qui sécurisaient des manifestations de gilets jaunes. Des pavés et d'autres projectiles ont été lancés sur un fourgon. Hier encore, entre 1000 et 2000 personnes ont défilé entre les Champs-Élysées et le Champ de Mars à Paris. L'affaire Air Cocaïne, jugée à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale à Aix-en-Provence, près de 700 kilos de cocaïne avaient été saisis dans un jet privé. 9 hommes, dont 4 Français, devront s'expliquer. Puis la Ligue 1, ce but spectaculaire de Kylian Mbappé hier soir, qui a permis au Paris Saint-Germain de s'imposer 1-0 à Saint-Etienne en clôture de la 25e journée.
Europe 1. Nikos Aliagas, vous revenez à présent sur l'attaque dont a été l'objet samedi l'écrivain et académicien Alain Finkielkraut, des insultes à caractère antisémite en marge de la manifestation parisienne des Gilets jaunes. En ligne avec vous ce matin, le philosophe et écrivain Bernard-Henri Lévy.
Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous par téléphone. Vous avez réagi ce week-end sur Twitter après les insultes proférées à l'encontre de votre ami Alain Finkielkraut. Hier soir, vous écriviez encore « Le pays est rassemblé autour d'un écrivain juif. Cette union nationale durera-t-elle » C'est la question qu'il faut se poser ce matin.
Oui, et puis il faut se poser une autre question aussi. C'est cette union nationale est-elle profonde ? Est-elle sincère ? Est-elle dénuée d'arrière-pensée ? Est-ce que nous allons assister cette semaine, dans les jours qui viennent, à un vrai moment de fraternité républicaine pour dénoncer et pour refuser cette horreur absolue qu'est l'antisémitisme ? Ou est-ce qu'on va assister à des calculs politiciens, à des petites arrière-pensées ?
Vous avez
à
un
des
doute
gens qui se... Oui, j'ai des doutes, bien sûr. J'ai
pourquoi
l'espoir que cela soit sincère et profond, mais j'ai un doute quand je vois les uns se feindre de se poser la question que est-ce qu'ils sont invités, pas invités, secrètement non désirés, quand je vois certains leaders politiques comme Jean-Luc Mélenchon dire des choses absolument ahurissantes, antisémitisme instrumentalisé, comme s'il fallait l'opposer à un antisémitisme franc et loyal. Bref, je voudrais que toutes ces petites manigances et toutes ces petites pensées acceptent de rester en lisière et acceptent de céder la place à une vraie étreinte républicaine des démocrates de tous les bords, de droite et de gauche. Comme disait un grand poète français, la rose et le réséda.
Alors justement, il y aura ce rassemblement dont vous parlez demain soir. Et je voudrais qu'on écoute Alain Finkielkraut. Il a réagi quelques heures après son agression verbale. Écoutez.
Cette phrase est terrible, elle est extraordinairement menaçante, parce que ce qu'il est en train de dire, lui, il est en train de dire « Nous sommes le grand remplacement et tu vas être le premier à le payer ».
Cette phrase, c'était « Nous sommes le peuple ». Vous partagez le point de vue d'Alain Finkielkraut, Bernard-Henri Lévy ?
Mais personne n'est le peuple. Le peuple, c'est le peuple des républicains. Le peuple, c'est le peuple des démocrates. Et en tout cas, personne ne peut dire « Je suis le peuple » et en exclure d'autres. Quel qu'il soit, juif ou autre, personne n'a le monopole du peuple. Ça, c'est la chose fondamentale à entendre ce matin et à entendre à l'aube de cette semaine, dont j'espère qu'elle sera marquée par ce sursaut républicain.
D'où vient cette violence ? Alors, on dit qu'elle est en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Certains disent qu'elle est au cœur de la manifestation des Gilets jaunes. Comment est-ce que cette boîte de Pandore a-t-elle été ouverte aujourd'hui, en 2019, Bernard-Henri Lévy ?
Mais écoutez, comment est-ce qu'elle a été ouverte ? Il y a beaucoup de responsabilités, mais en tout cas, certainement pas aux marges. Parce que c'est des violences, malheureusement, violences contre les journalistes, violences contre les policiers, violences contre la représentation nationale. Elle a commencé dès le premier acte de ce mouvement. Et la violence contre les juifs, les slogans antisémites, c'est comme le terme de ce mouvement, l'aboutissement de cette distillation. On commence par le référendum d'initiative citoyenne et on finit avec l'antisémitisme. On commence avec Rousseau et on finit avec Doriot. Mais ce n'est pas les marges, ça. C'est le cœur du mouvement.
C'est ça
ne
le...
veut pas dire que... Pardon ?
Je vous en prie, c'est un nouvel antisémitisme, vous voulez dire ?
Non, c'est un antisémitisme ancien et nouveau. Il est nouveau, oui, quand il se déguise derrière quand il se cache derrière l'antisionisme. Il est ancien quand il se vautre dans la veulerie et dans l'insulte raciale, mais il n'y a qu'un antisémitisme, c'est celui qui insulte, qui blesse et qui un jour, Ilan Halimi et d'autres tuent. Cet antisémitisme-là, il est toujours le même. Mais on ne peut pas dire malheureusement qu'il est aux marges du mouvement. Alors ça ne veut pas dire que le mouvement des Gilets jaunes ait été intrinsèquement antisémite, bien sûr que non, mais ça veut dire en revanche qu'il serait temps que ceux qui restent des Gilets jaunes se manifestent fortement pour dire « pas en notre nom » et pas comme ils le font là. On entend ici ou là « oui, d'accord, mais ». Non, il n'y a pas de « mais ».
Il n'y a pas de « mais », vous voulez dire.
Face à l'antisémitisme. Non, bien sûr. Vous savez, quand une femme se fait agresser dans la rue, on se demande pas il est interdit de se demander si sa jupe était trop courte. Quand un juif se fait agresser parce qu'il est juif, il est interdit de se demander si on est d'accord avec lui ou pas d'accord avec lui. On commence par dénoncer et par dire que en 2019, l'antisémitisme, les mots d'ordre nazis qui balafrent nos rues, qui souillent la conversation nationale, sont inacceptable.
Mais est-ce qu'on a les moyens ?
Et par rapport à ça, oui. Il n'y a pas de mais. Et on a entendu trop de mais dans les dernières heures.
A-t-on les moyens, Bernard-Henri Lévy ? Par exemple, on vous parlait d'une manifestation demain. Est-ce qu'elle est utile ? A-t-on les moyens à la fois d'apaiser, de réunir et de convaincre celui qui douterait, celui qui irait avec la meute ou celui qui irait avec le vent ?
Bien sûr qu'on est. Vous savez, on est aujourd'hui dans un moment qui, moi, me fait penser au quelque chose qui s'est déjà produit en France. Peut-être les années 30, mais plus sûrement l'époque de l'affaire Dreyfus. Il y a eu quelques années où on a vu ça. Les anti-républicains des deux rives, les anti-républicains de droite et de gauche, unis contre les parlementaires, contre les journalistes et au bout du compte contre les juifs. Ça a duré quelques années et puis un beau jour la France s'est ressaisie. Et il y a eu en particulier un très beau moment d'unité nationale, je crois que c'était en novembre 1999, il y a eu Place de la Nation, l'inauguration d'une statue qu'on peut toujours voir, que voient tous les manifestants qui défilent dans Paris, qui s'appelait le Triomphe de la République, qui était dû à un sculpteur français. Ce moment-là, c'est le moment où l'affaire Dreyfus a tourné. C'est le moment où les valeurs démocratiques et républicaines l'ont emporté. Donc ce moment va arriver. Il faut souhaiter qu'il arrive vite, parce que ça a trop duré, et parce que le spectacle que nous nous donnons à nous-mêmes, le spectacle de cette veulerie, est trop insupportable et trop contraire aux valeurs de la France et de la République.
Avez-vous avez-vous un appel à lancer ce matin aux Français qui nous écoutent, Bernard-Henri Lévy, au-delà de votre analyse et au-delà du rappel des faits et de la sensibilité?
Mais moi, je ne lance pas d'appel, Nico Saliekas. Je ne suis pas un homme politique. En effet, je fais des analyses.
Vous êtes un intellectuel qui prend la parole.
Oui, bien sûr. Non, mais j'essaie de réfléchir surtout à ce qui se passe, à ce qui revient, aux fantômes qui hantent la République française et qu'il faut aujourd'hui conjurer. Il y a quelque chose qui se passe, qui est en train de croître au sein de notre société, qui est comme un terrible cancer. Ce cancer, il faut l'arrêter. Et il y a des cancers dont on guérit. Et je suis, moi, convaincu que ce mélange de frissons factieux, de fascination de la force, d'appel au chef et finalement d'antisémitisme, je pense que les Français vont se réveiller et qu'ils vont se rendre compte que là est le pire de leur histoire, le pire de l'idéologie française, et qu'il faut en sortir très vite. Et que les Gilets jaunes se manifestent, qu'ils disent, s'ils ne veulent pas d'amalgame, et ils ont raison, qu'ils soient les premiers à rompre l'amalgame et à prendre position très fermement, sans la moindre hésitation, sans la moindre ambiguïté, sans le moindre atermoiement contre l'antisémitisme et contre toutes les autres manifestations d'abjection qui ont trop souvent parsemé jusqu'à présent les actes de leur mobilisation.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci d'avoir réagi sur Europe 1, Bernard-Henri Lévy.
Nico Saliagas sur Europe 1.
À ne pas manquer dans le journal de 8h, quel avenir pour la maternité de Bernay dans l'Eure? Le gouvernement souhaite sa fermeture, ça fait grincer des dents. On vous expliquera pourquoi dans quelques instants. Et puis dans une minute, la petite histoire positive de Jean-Philippe Ballas. Vous savez, ça s'appelle « Vous savez quoi ?» Et souvent, on réfléchit et ça nous fait du bien juste après. À tout de suite.
Une belle matinée sur Europe 1, il est 7h55. Il est 7h57, c'est l'heure de retrouver Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour, Nicolas.
La petite histoire, vous savez quoi, hein, c'est le titre de cette rubrique. Et tous les jours, avant 8h, Jean-Philippe Ballas nous fait réfléchir. Et là, on va parler d'une manif de ce week-end, du week-end dernier. Mais ce n'était pas une manif en jaune, c'était une manif en bleu.
Oui, et quelle manif! Attention les amis, je vous parle d'un record du monde. Vieux de 10 ans, il a été battu ce week-end. Le record du plus grand rassemblement de Schtroumpf.
Ouais, ce truc.
Et là, je me dois d'être précis. 2762 participants, tous déguisés, peinture leurrée en Schtroumpf. 2762, le miracle a eu lieu dans une petite commune du sud de l'Allemagne, près de la frontière suisse. Le règlement était strict. Il fallait être peint en bleu sur toutes les parties visibles du corps, avec les vêtements idoines, des tresses jaunes si vous étiez en Schtroumpfette, une barbe et un bonnet rouge si vous étiez en grand Schtroumpf, ou un bonnet blanc, pantalon blanc classique pour les Schtroumpfs, disons, comme vous et moi. Alors j'avoue, au départ, je n'ai pas su quoi faire de cette information. Absolument capitale ou complètement débile, je vous laisse cocher la case. J'ai pensé aux juges qui ont pris soin de compter les Schtroumpfs un à un pour que le record soit homologué. Et puis j'ai regardé les photos, j'ai vu des gens plutôt joyeux, un peu flippants, certes parfois, oui, mais heureux de se retrouver pour faire les ouaves. Je n'ai pas vu d'image de méchants dans cette manif, non. Interdiction formelle de se déguiser en Gargamel, l'ennemi juré des Schtroumpfs, ça aussi c'était stipulé dans le règlement. Et puis j'ai pensé à Peyo, oui, le dessinateur, créateur des Schtroumpfs en 1958, il y a plus de 60 ans, oui. Un trait de crayon génial qui traverse les générations. Alors moi aussi ce matin, j'ai cherché quelque chose de bleu dans mes affaires, histoire de marquer le coup. J'ai trouvé une paire de chaussures et vous savez quoi? Elles sont hyper schtroumpf.
Ça, ça fait du bien.
Step on my face.
Allez, Lolo.
Elvis Cabral.
The King, Jean-Philippe Ballas. Merci Jean-Philippe pour la petite histoire.
Et bravo Laurent Cabrol, qu'on va retrouver dans un instant pour la météo. Il y aura également le journal de David Doucan.
Il est bon, hein, Lolo.
Le Schtroumpf Le Schtroumpf du ciel, parce que le ciel est bleu aujourd'hui, on peut le schtroumpfer comme on veut. C'est un ciel vraiment inoffensif, un ciel très agréable, accepté quand même pour ceux d'entre vous qui habitent la Bretagne, le Cotentin et les côtes normandes, où là nous aurons un passage pluvieux, un tout petit passage pluvieux. Déjà il pleut vers Granville, vers Quimper, Brest ou Lannion. Et ces petites pluies vont glisser petit à petit à l'intérieur des terres, nous les retrouverons demain. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur le Languedoc-Roussillon, nous avons du vent marin et donc toujours ces entrées maritimes qui sont très agréable. Encore un petit mot pour ceux d'entre vous, parce qu'il fera entre 11 et 20 degrés aujourd'hui. Hein. Encore un petit mot. Si vous êtes dans une ville où vous êtes bien placé géographiquement, vous regardez le ciel, vous voyez des grandes traînées, ce sont des nuages artificiels dus aux avions qui envoient donc de la condensation dans l'air. Et ces nuages sont rouges. Et sur Paris, vous avez une sorte de grand quadrillage rouge. Alors, ça se fait, il y en a sur Paris, il y en a surtout d'autres villes de France, où vous voyez donc ces nuages artificiels de couleur rouge. C'est très joli.
Certains disent qu'on nous arrose.
Oui, ça c'est ton corps,
c'est complotiste.
Complètement fantaisiste.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce lundi 18 février. Bon réveil à tous, il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nico Saliès.
David Doucan, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de votre actualité ce matin, de votre journal.
L'ignominie de la dérive antisémite. L'agression du philosophe Alain Finkielkraut vient s'ajouter à une liste sordide des rassemblements contre la haine anti-juive demain dans tout le pays. Page complète dès le début de ce journal. Une maternité qui ferme et c'est toute une région qui se sent abandonnée. Le dossier épineux de celle de Bernay dans l'Eure. La ministre Agnès Buzyn sera sur place ce matin. Comité d'accueil à prévoir. Le service national universel. Les jeunes devront porter un uniforme. Europe 1 vous révèle à quoi il ressemblera.
Et puis à 8h12, Vincent Hervouette, Donald Trump demande aux Européens de rapatrier leurs djihadistes de Syrie. Et à 8h15, Audrey Caspomara qui reçoit Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement. Faut-il interdire les prochaines manifestations des Gilets jaunes? Une question, on attend sa réponse.
Europe 1. Ce sont des hurlements, des injures en pleine rue, l'agression antisémite du philosophe Alain Finkielkraut samedi, une de plus. Des rassemblements contre la haine anti-juive se tiendront demain soir partout en France. Bonjour Aude Vernuccio.
Bonjour David.
C'est comme si l'antisémitisme avait trouvé dans la crise des Gilets jaunes le moyen de déferler librement au grand jour.
Et il y a d'abord eu le mot Juden sur la vitrine d'un restaurant, le portrait de Simone Veil couvert de croix gammées, les arbres en mémoire d'Ilan Halimi sciés, et puis ses injures envers Alain Finkielkraut. Alors un peu partout, à Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, des marches s'organisent. Et si les associations comme la LICRA saluent la démarche, son président d'honneur Alain Jakubowicz s'inquiète de son efficacité.
Qui va descendre dans la rue? Ça, c'est la vraie question. On verra effectivement ce que la société française est en mesure de prendre en considération. Comment elle prend ce mal à son compte? On n'a jamais pris la mesure du mal. On n'a jamais pris la gravité de ce cancer qui gangrène la société française.
Ce sont, Aude, les partis politiques qui appellent à ces rassemblements.
Oui, et plus précisément, le Parti Socialiste rejoint par 13 autres mouvements. La République En Marche, les Républicains, le Modem, le Parti Communiste. La France Insoumise a fini par s'y associer, mais à sa façon. Jean-Luc Mélenchon évoquant dans un tweet, je cite, « l'instrumentalisation de l'antisémitisme ». Enfin, le Rassemblement National. Si Marine Le Pen soutient l'initiative, elle n'y participera pas. Elle précise que son parti n'a pas été invité personnellement.
Merci à vous, Aude Vernuccio.
Est-ce qu'on en sait plus, David, sur les auteurs de l'agression verbale qu'a subie Alain Finkielkraut?
Oui, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. L'un des hommes a été identifié. C'est l'un des agresseurs les plus virulents que l'on voit sur la vidéo, Pierre de Cossette.
Oui, il s'agit de cet homme que l'on voit avec son collier de barbe et qui porte autour du cou un foulard type keffier. Il est filmé, il le sait parfaitement puisqu'on le voit regarder l'objectif et il lance à Alain Finkielkraut ces mots « Espèce de raciste, tu es un haineux et tu vas mourir, tu vas aller en enfer et Dieu, il va te punir ». La police n'a semble-t-il pas eu de difficulté à l'identifier, elle le connaissait déjà, notamment pour des faits d'outrage. Alors maintenant, les enquêteurs vont-ils aller interpeller au saut du lit ce suspect? Pas nécessairement, il sera peut-être convoqué pour être entendu, c'est le parquet de Paris qui décidera de la manière, sachant que la police judiciaire doit encore mettre des noms sur d'autres visages, ceux des hommes que l'on entend hurler à l'académicien « sale sioniste, rentre chez toi en Israël, la France, elle est à nous ». Certains de ces suspects portent des gilets jaunes, pas tous, certains des capuches, mais la plupart sont à visage entièrement découvert. Dans cette affaire, les enquêteurs ont la chance d'avoir des vidéos, ce n'est pas si fréquent et c'est une aubaine.
Merci Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute cette information du Parisien, selon nos confrères, le principal suspect
suspect, celui que vous évoquiez au début de votre intervention, Pierre, a évolué dans la mouvance islamiste radicale en 2014.
C'est un sujet qui est au cœur du grand débat national, la désertification de nos territoires, David.
Avec le sentiment d'abandon qu'elle génère, comme par exemple à Bernay, dans l'Eure, la maternité va fermer. Emmanuel Macron avait été personnellement saisi du dossier lors de son premier échange avec les maires à Grand-Bourterould. La ministre de la Santé se rend sur place ce matin. Agnès Buzyn propose de remplacer l'institution par un centre périnatal. Cela suffira-t-il? On peut en douter. La population est très attachée à sa maternité. Reportage Hélène Terzian.
Il n'a que quelques heures, le petit Marin dans son berceau dort à côté de sa maman Alexia, ravie d'avoir pu accoucher dans sa propre ville.
Le trajet maison maternité, 7 minutes en voiture, on se gare, on arrive au service de maternité en une minute, ça s'est très bien passé. Pour certaines familles, il faut agir dans l'urgence, on a ce stress en moins.
La transformation de la maternité en un centre de périnatalité obligerait les femmes à aller accoucher à Lisieux ou Évreux, jusqu'à 3 quarts d'heure de route. Alors pour Sarah Ferro, infirmière force ouvrière à la maternité et membre de l'association Liberté, Égalité, Proximité, ce serait une aberration de cesser l'activité d'une maternité qui dépasse le seuil des 300 accouchements par an.
On se sent des citoyens de seconde zone, on paye nos impôts comme les Parisiens, donc on veut avoir des services publics, comme à Paris. Dans nos petites villes, les hôpitaux sont les premiers employeurs. On perd toute attractivité au niveau territorial.
Et si l'État brandit l'argument de la sécurité, des effectifs trop faibles et une certification refusée à l'hôpital en 2017, toutes les améliorations ont été apportées, confie une ancienne cadre hospitalière.
Hélène Terzian pour Europe 1. Des centaines de kilos de cocaïne, d'ex-pilotes de chasse aux commandes d'un jet privé, de multiples rebondissements de la République dominicaine jusqu'à Saint-Tropez et 9 accusés. L'affaire Air Cocaïne arrive aujourd'hui devant les juges, 6 ans après une saisie spectaculaire sur un tarmac de Punta Cana. Le procès se déroulera devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.
Europe 1.
Et à suivre dans le journal de 8h avec David Doucan, le service national universel. Les jeunes devront porter un uniforme et Europe 1 vous révèle à quoi il va ressembler. A tout de suite.
Les 8h10, votre matinale info, Nikos Aliagas.
J'espère que vous vous réveillez tranquillement, vous partez travailler, peut-être vous êtes déjà au boulot. Voici la suite du journal avec David Doucan. Et qui dit service national universel dit uniforme.
Oui, et il va falloir le concevoir, cet uniforme. Un appel d'offres va être lancé ce matin auprès de 13 lycées professionnels spécialisés dans la mode. Mais il faudra respecter des consignes édictées par l'État. Un document a été édité pour leur servir de base. Ève Roger a pu le consulter.
Dans le paquetage des filles comme des garçons, 2 pantalons, 2 polos, 2 t-shirts, 1 pull, 1 short pour le sport, 1 coupe-vent et 1 paire de chaussures. Voilà le trousseau, la base de l'uniforme. Côté couleur, le cahier des charges précise qu'elles devront évoquer la nation, la patrie, la république et même l'intérêt général. Seule certitude, le bleu, blanc, rouge du drapeau français devra obligatoirement apparaître sur l'insigne cousu sur les vêtements, cocarde ou écusson, précise le document. L'idée, c'est que ces vêtements puissent resservir après en cas d'attentat ou de catastrophe naturelle. Ces jeunes transformés en volontaires auront en effet appris les gestes qui sauvent et la conduite à tenir en cas de crise. Le jury, composé entre autres du général Benoît Puga, le chef de l'état-major particulier de Nicolas Sarkozy, puis de François Hollande, ou d'un jeune créateur qui monte, Simon Porte-Jacquemus, devra faire son choix dès la fin du mois de mars, moins de 3 mois avant le départ des premiers cobayes.
Ève Roger pour Europe 1.
Le film de François Ozon pourra-t-il sortir ce mercredi?
Nous aurons la réponse en fin de journée. La justice doit dire si ce long métrage bafoue la présomption d'innocence. Grâce à Dieu, c'est le titre, raconte l'affaire de pédophilie qui met en cause le père Bernard Prénat du diocèse de Lyon. Un film choc déjà vu en avant-première dans un petit cinéma de la banlieue lyonnaise à 2 pas du camp de scouts où les faits de pédophilie présumés se sont produits. Reportage Jean-Luc Bougeon.
Des applaudissements et beaucoup d'émotions à la fin de la séance. Les spectateurs de Sainte-Foy restent abasourdis par la force du film, comme Dominique et Odile.
C'est remuant quand même. Hein.
Vraiment un excellent film. François Ozon a extrêmement bien ressorti la souffrance de ses enfants qui sont devenus adultes.
Ce que t'as fait le père Prénat, c'est mal et c'est interdit par la loi.
Un prêtre n'embrasse pas un enfant sur la bouche.
Ici, dans la banlieue chic de Lyon, beaucoup de spectateurs se déclarent catholiques et pratiquants, et tous ou presque, comme Maurice, connaissaient le père Prénat.
On l'a connu comme séminariste d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était un jeune prêtre, dynamique, qui remplissait l'église. Il chantait très bien d'ailleurs. On était au courant de rien. J'ai été surpris, j'ai dit, mais c'est pas possible, le père Prénat. On est scandalisé.
À l'issue du film, certains spectateurs sont tout de même mal à l'aise. Pour Jean-Marc, le film est un peu à charge contre l'église.
Moi, je suis catholique, et c'est pas parce qu'on sait tout ça qu'il faut se désintéresser de la religion. Je suis dans l'église et au contraire, je ne veux pas les accabler, non.
Grâce à Dieu sortira en salle mercredi prochain, sauf si d'ici là, la justice donne raison à l'avocat du père Prénat qui demande le report de la sortie après le procès du prêtre qui devrait avoir lieu en fin d'année. Sainte-Foy-les-Lyons, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Et permettez-moi, Nikos, de conclure ce journal avec un geste. Oui, une reprise de volée à l'aveugle sur une passe en lobe qui lui arrive derrière la tête. Le pied jaillit, frappe. Et ça part en lucarne, c'est magnifique. L'auteur s'appelle Kylian Mbappé. Le PSG l'a emporté 1-0 à Saint-Etienne hier soir. C'était la 25e journée de Ligue 1.
Pour un peu, j'ai cru qu'il était là devant vous, Mbappé. Mais quelle description!
Quand c'est un beau but, il faut pas se gêner.
Hein. Oui, après, on peut l'imaginer.
Il faut en profiter.
Voilà, c'est là où les footballeurs peuvent être aussi des artistes. Merci, David Doucan, pour le journal de 8h.
Et vous le disiez tout à l'heure, Nikos, beaucoup de réactions sur Twitter face à ce sujet, face à l'antisémitisme ambiant dont nous parlons ce matin sur Europe 1, notamment tout à l'heure avec Bernard-Henri Lévy. Mm-hmm. Isabelle nous dit sur Twitter, rendez-vous demain à 19h, place de la République à Paris pour une étreinte républicaine. Elle rajoute, c'est une jolie expression. Vive l'union sacrée autour de notre ADN, liberté, égalité, fraternité, des rassemblements de ce type vont avoir lieu partout en France. Continuez à réagir avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Nikos.
Le président américain est un président qui tweet énormément. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour à tous.
Nouvel affront ce week-end de Donald Trump aux pays européens. Il a écrit « Les États-Unis demandent à la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et aux autres alliés européens de reprendre plus de 800 combattants de l'EI, il parle de Daesh, que nous avons capturés en Syrie afin de les faire passer en jugement. Il n'a pas d'alternative car nous serions forcés de les libérer », a-t-il dit.
Oui, alors que ses ministres et généraux tergiversent, eh bien dans son canapé qui est planté devant Fox News, Donald Trump s'impatiente et son raisonnement, c'est vrai, il est simple comme un tweet. Le califat est liquidé, chacun doit rentrer chez soi. Les 2000 Américains à la maison, l'armée de Bachar el-Assad dans la province du Nord et les djihadistes d'où ils sont venus. Donald Trump ne voit pas pourquoi il paierait plus longtemps les Peshmerga pour qu'ils nous servent de garde-chiourme dans un Guantanamo provisoire. Faucon, Yaka. Et c'est là qu'on réalise que la guerre civile est la pire des guerres jusque dans l'après-guerre. Tant que les djihadistes sont au combat, on les écrase. Mais quand ils sont prisonniers, la légitime défense cède la place à l'état de droit. Plus question de kidnapper un terroriste, il doit être livré dans les formes par un État souverain. Or, il n'y a pas d'État kurde. Ramener les djihadistes est juridiquement complexe, politiquement sensible, électoralement dangereux et sur le plan moral aussi, c'est une épreuve à laquelle les Européens ne sont pas préparés.
Mais pourquoi donc ?
Bien, les soirs d'attentats ont dit que la France est en guerre, mais ce n'est pas vrai. Où sont la censure, le couvre-feu, le rationnement, la mobilisation générale, l'effort de guerre ? En Europe, on cherche en vain une nation en guerre. Prenez le Royaume-Uni. Les Britanniques ont découvert hier Shamima Begum, 19 ans. Elle a rallié la Syrie, elle en avait 15. Elle aimait mieux sa vie à Raqqa qu'à Londres. Elle dit qu'elle y est devenue plus forte et plus dure. Elle est d'accord avec les décapitations d'infidèles, puisque c'est autorisé par la loi islamique. Elle a trouvé un mari qui lui a fait des enfants. Les deux premiers sont morts, faute de soins. Hier, elle a accouché du troisième. Elle demande de la compassion pour ce qu'elle a vécu. Elle veut rentrer. Shamima fait pitié ou elle fait horreur, ou les deux à la fois. Mais personne n'envisage de la tondre. Son retour sera celui de la femme enfant prodigue. La guerre, c'est la loi du talion qui s'applique aux terroristes. Mais l'après-guerre, c'est l'affaire des juges contre les ennemis du droit. Un combat inégal. 400 Britanniques sont revenus du califat. 10% seulement ont été présentés à un juge.
Le point de vue et l'analyse de Vincent Hervouet, tous les jours sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans deux minutes, l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara. Bonjour Audrey.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
On commence la semaine avec qui ?
Eh bien écoutez, avec un ministre qui va répondre à une question, notamment le gouvernement instrumentalise le... Instrumentalise-t-il l'antisémitisme pour diaboliser les Gilets jaunes ? Et les ministres se rendront-ils à la marche contre l'antisémitisme demain ? Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, sera mon invité.
Il vient de s'installer en studio, on a hâte de vous écouter. À tout de suite.
Une belle matinée sur Europe 1, il est 8h15. Il est 8h17, Nikos Aliagas.
Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesneau, et votre invité Audrey Crespo-Mara.
Bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
L'Arc de Triomphe saccagé, la porte d'un ministère défoncée, la maison du président de l'Assemblée incendiée, Alain Finkielkraut agressé parce qu'il est juif. Faut-il, comme le demande Éric Ciotti, interdire les manifestations des Gilets jaunes ?
En tout cas, ça n'a pas été la stratégie du gouvernement, le droit de manifester... Le droit de manifester est un droit intangible. Pourra se poser un moment la question de savoir si, compte tenu des troubles à l'ordre public, ce d'autant que la plupart de ces manifestations ne sont pas déclarées. Ou alors on déclare un parcours et on en fait un autre. Il y a des mesures d'ordre public qui sont déjà prises. On verra s'il faut graduer la réponse.
On verra.
Le droit de manifester est un droit intangible. C'est une tradition française, si je peux dire, et c'est constitutionnellement garanti. Simplement, il y a des forces de l'ordre qui sont là pour faire en sorte que l'ordre public soit respecté. C'est bien ça qui compte et c'est ça le plus important. Évidemment, vous avez fait une liste assez longue et on aurait pu ajouter beaucoup d'autres faits qui sont très graves et qui posent des questions d'ordre public assez graves.
Jean-Luc Mélenchon affirme qu'autour d'Alain Finkielkraut, il y avait aussi des gilets jaunes qui voulaient le défendre et s'opposer à l'attaque. Autrement dit, le gouvernement n'instrumentalise-t-il pas l'antisémitisme ?
Mais il faut que M. Mélenchon regarde les vidéos d'un certain nombre de faits qui se sont déroulés depuis des semaines et constater qu'il n'y a pas d'instrumentalisation. D'abord, comment pourrait-il y en avoir une ? Et simplement, ce sont des faits. Et ce n'est pas la peine de dire à chaque fois « Oui, j'en ai vu un ou deux, ou j'en ai vu trois qui ont essayé d'éviter tel ou tel mouvement. » J'ai vu aussi ce week-end des gens qui ont essayé de lyncher une camionnette de police. Il n'y a pas de question d'instrumentalisation. Il y a une violence qui est exacerbée. Il y a un certain nombre de gens, chez les Gilets jaunes, il faut le dire aussi, qui ont des attitudes qui sont absolument déplorables et inconcevables d'ailleurs en démocratie, et qu'il faut condamner. Ce n'est pas la peine de chercher... parce qu'il y aurait des gens qui s'opposeraient à ça, de ne pas regarder aussi l'essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens dans les manifestations, des gilets jaunes, et pas des gens qui sont forcément extérieurs, qui procèdent à des actes qui sont insupportables.
Vous aimeriez que les figures des gilets jaunes se désolidarisent de cette
agression ? On les a entendus beaucoup pour dire des choses sur les plateaux. On aimerait qu'ils viennent se désolidariser d'un certain nombre de faits de violence qu'on a vus. Il y a eu une permanence d'un député qui a été saccagé ce week-end. Vous avez cité un certain nombre d'autres faits. Jamais on ne les entend prendre la parole sous le motif que le gilet jaune donnerait une espèce d'immunité générale à ceux qui manifestent. Non, il n'y a pas d'immunité générale. Quand on fait des actes qui sont répréhensibles, il faut d'abord les condamner. C'est la responsabilité d'un certain nombre de responsables, entre guillemets, des gilets jaunes, parce que je ne vois pas beaucoup de responsabilités, je vois beaucoup d'irresponsabilités et c'est notre responsabilité collective de les condamner.
Pensez-vous que les figures des gilets jaunes sont donc davantage de dangereux révolutionnaires que de braves gens qui se battent pour remplir leur frigo ?
Enfin, moi, je n'ai pas entendu dans les propos qu'ils ont tenus, j'ai entendu M. Chalençon qui appelait à l'insurrection et qui dit que des brigades paramilitaires étaient prêtes. J'ai entendu un certain nombre de gens parmi les responsables qui parlaient de dictature, c'est eux qui sont en train d'essayer d'organiser un pays qui soit un pays dictatorial, un pays où finalement on n'a plus le droit d'exercer sa profession, je pense à la profession de la presse, on n'a plus le droit d'exercer son métier ou son travail de parlementaire ou d'élu local, simplement parce qu'on est à la pression d'un certain nombre de gens. Et ça, c'est inacceptable.
Marc Fesneau, en tant que ministre, vous rendrez-vous demain à la manifestation contre l'antisémitisme ?
Oui, je pense que c'est la responsabilité de l'exécutif, des ministres, des parlementaires que de s'y rendre. Parce
donc
que je pense
tout gouvernement
qu'il faut...
s'y rendra ?
Oui, on verra comment on organise les choses. Il y a toujours des sujets de sécurité, mais en tout cas, la volonté gouvernementale, c'est bien d'être présent pour marquer... l'unité nationale derrière des faits qui sont incroyables et qu'on voit se multiplier de semaine en semaine, il y a quelque chose de latent et il faut qu'on mette un coup d'arrêt à ces éléments-là pour mettre hors de la société, au sens politique du terme, ceux qui s'expriment de cette façon-là.
Donc on peut s'attendre à une image forte, tous les ministres côte à côte demain.
Je pense qu'il faut qu'on ait une image forte, mais il n'y a pas que les ministres. C'est une initiative des partis politiques. Je pense que ça n'est pas une affaire gouvernement ou pas gouvernement. C'est une affaire de la société française qui doit se défendre contre ceux qui, au fond, en attaquant finalement ou en attaquant telle ou telle communauté, font défaut à ce qu'est l'image et ce qu'est la France.
On peut s'attendre à voir le Premier ministre et le Président de la République ?
On verra. C'est eux qui détermineront leur choix, c'est pas à moi de le dire.
Marc Fesneau, plus de 80 parlementaires ont été agressés ou menacés de mort. L'antiparlementarisme est intolérable, l'antisémitisme est intolérable et pourtant les Gilets jaunes attaqueront dans 5 jours leur 15e samedi de mobilisation qui donneront lieu à de nouveaux débordements. Faut-il en déduire qu'Emmanuel Macron ne sait pas défendre la démocratie ? vous ?
Écoutez, c'est ce que nous faisons depuis 3 mois. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on peut constater, c'est notre volonté à la fois de laisser s'exprimer ce que peuvent être des revendications légitimes et par ailleurs de défendre la démocratie, ses symboles et ceux qui la représentent et ceux qui la font vivre.
Il y a des symboles malmenés.
J'ai entendu M. Dupont-Aignan sur des ondes dire qu'il appelait une foule lors d'une manifestation à ne pas laisser sortir vivants. Vous entendez mes mots, à ne pas laisser sortir vivants des députés parce qu'ils voteraient une loi PACTE, ça c'est de l'irresponsabilité. Mais c'est plus grave que de l'irresponsabilité.
Il appelle effectivement à ne pas laisser repartir vivants les députés en marche s'ils votent la loi PACTE du second degré,
oui, assure-t-il. Oui, il n'y a pas de second degré dans la période qu'on vit. C'est une incitation, d'une certaine façon, à la haine à l'endroit des parlementaires. Il n'y a pas de second degré.
Il est lui-même député.
Monsieur Dupont-Aignan n'est plus dans le second degré et ce n'est pas la peine qu'il se cache derrière le second degré pour justifier des propos qui sont inqualifiables. Parce que quand vous dites ça, vous accréditez toutes les thèses. Et donc ça, c'est inacceptable en démocratie. Je pense que monsieur Dupont-Aignan prend une très lourde responsabilité en jetant à la vindicte populaire. Et puis ça a un deuxième effet, c'est en gros, et finalement, de dire aux parlementaires, vous êtes sous la menace physique de ceux qui vous regardent. Et donc si vous ne votez pas comme ils le veulent, et c'est une minorité. Et si vous ne votez pas comme ceux qui le veulent, eh bien vous serez menacé physiquement. Dans quelle démocratie on vit ? Quelle démocratie peut supporter qu'on menace à ce point la liberté de choix, la liberté de vote ?
Il est député lui-même, hein,
oui,
je le rappelle.
Oui, mais c'est d'autant plus grave qu'il est député lui-même. La liberté de vote d'un parlementaire, c'est un élément fondamental d'une démocratie. Il vote en conscience. Et donc en faisant ça, M. Dupont-Aignan essaye de menacer les consciences et d'empêcher la démocratie de fonctionner.
Marc Fesneau, vous êtes le ministre chargé des relations avec le Parlement. Les 40% de Français qui ont voté Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle ne sont représentés que par 4% des députés. Ça veut dire que lorsque l'opposition est mal représentée à l'Assemblée, peu représentée, elle s'exprime dans la rue.
Pas forcément, mais en tout cas, la question de la représentation de la pluralité des opinions françaises est une question posée. C'est d'ailleurs la question qui est posée, y compris au travers du grand débat national. L'occasion quand même de saluer les millions et les centaines de millions de Français qui jouent le jeu du grand débat, contrairement à ceux qui, dans la rue, procèdent de la façon dont qu'on a pu l'écrire tout à l'heure. Et je pense que la question de la proportionnelle est posée pour mieux représenter le pluralisme politique.
Parce que le Rassemblement national, premier parti d'opposition en France, n'a pas assez de députés aujourd'hui pour former un groupe parlementaire.
Absolument.
Vous trouvez ça peu démocratique ?
Mais moi, j'ai siégé dans une assemblée régionale où le Front National était représenté au travers d'un groupe. Moi, je trouve ça assez légitime. Dès lors que les Français leur ont accordé leur suffrage, qu'ils puissent s'exprimer. Je préfère les avoir en face de moi. Pour combattre leurs idées, pour combattre d'ailleurs leurs dérives et parfois combattre leurs incohérences, plutôt que les avoir finalement tapis dans l'ombre et profitant et se victimisant eux-mêmes d'une absence de représentation.
Donc vous appelez de vos voeux la proportionnelle.
Oui, je crois que c'était un engagement du président de la République pour ce motif-là, pour que chaque Français puisse avoir le sentiment qu'il est une part de lui-même est représentée, et une part de ce qu'il pense est représentée à l'Assemblée nationale.
Et quand est-ce que ça peut être envisagé très concrètement ?
À l'issue du grand débat, il y aura un certain nombre de propositions, notamment de propositions institutionnelles. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est un des éléments de la réponse institutionnelle qu'il faudra qu'on porte. Attendons quelques semaines et il y aura des propositions qui seront faites.
La proportionnelle sera parmi les questions du référendum.
Je vous rappelle qu'elle était déjà dans les textes qui ont été interrompus l'été dernier et donc elle était sur la table.
Mais elle pourrait être.
Elle pourrait être au travers des référendums. Mais on a une démocratie représentative. Il faut faire vivre la démocratie représentative et c'est bien que les lois soient votées au Parlement aussi.
Merci, Marc Fesneau.
Merci à vous.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique quotidiennement sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, ma chère Céline Dacosta.
Oui, et puis à 8h30, l'essentiel de l'info.
Et après l'agression à caractère antisémite d'Alain Finkielkraut samedi, les associations se mobilisent. Manifestation prévue demain à l'appel de plusieurs partis politiques. On vous dit tout dans quelques instants.
A tout de suite avec Nikos Aliagas sur Europe 1, les 8h26. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Eh bien, quand j'arrive au petit matin et que je regarde la presse, je me dis, mais comment David Abiker va-t-il faire sa revue de presse ? Que va-t-il choisir ? Et ce matin, mon cher David ?
Ben, je vais la faire avec vous, déjà, et avec Céline. Je vais la faire avec la bouche et je vais vous parler d'Internet ce matin. Il y a beaucoup d'Internet ce matin dans la presse, et notamment des craintes de piratage sur les élections européennes.
Eh bien, on a hâte de vous écouter. Et Nicolas Cantelot arrivera juste après pour la revue de presse. Et je peux vous assurer que lui aussi, il va la faire avec la bouche.
Tout de suite. C'est la météo avec Laurent Cabron, Nikos.
Lui aussi, il fait la météo avec la bouche.
Dingue.
fine bouche d'ailleurs ce matin.
On va me faire des petits bruitages. Alors en ce qui concerne les températures, de la journée, sont des températures qui sont très agréables. 11 degrés à Lorient pour les moins chaudes, les plus fraîches, mais enfin c'est très agréable déjà. 12 à Deauville, Langres et Annecy, 13 degrés à Nice, à Dijon, Nancy, Lille, 14 à Paris, à Strasbourg et Sochaux, à Marseille, Nevers, à Bourges, à Toulouse et à Poitiers, entre 15 et 16 degrés. 17 du côté de Niort ou d'Angoulême, 18 à Clermont-Ferrand, 19 à Bordeaux et 20 degrés à Dax dans les Landes, c'est là qu'il fera le plus chaud. Bien sûr, le ciel sera dégagé avec les deux petites nuances que j'inscris depuis ce matin, mais qui ne sont pas grand-chose. Des petites pluies près de la Manche et sur la presqu'île du Cotentin, ce sont des petites pluies totalement inoffensives ou presque inoffensives, qui ne durent pas bien longtemps. Et ensuite, elles vont pénétrer dans les terres et donner simplement des nuages sur la Loire-Atlantique, la Normandie, la Picardie et le Pas-de-Calais. Autre nuance, sur Languedoc-Roussillon, nous avons là des entrées maritimes, mais enfin, c'est vraiment rien, trois fois rien pour une journée qui s'annonce printanière à bien des égards. Demain, ce sera presque pareil, avec un petit passage pluvieux, pas grand-chose, mais enfin, un tout petit passage pluvieux. Et ensuite, eh bien, nous renouerons avec l'anticyclone, et j'aimerais vous en reparler tout à l'heure, parce que ce blocage anticyclonique pourrait durer longtemps, et cela nous inquiète beaucoup.
Oui, parce que vous êtes partisan de la pluie, ça fait du bien aux nappes phréatiques.
Ah, en ce moment, on a besoin de pluie, en ce moment. Après, non.
On va se contenter d'un peu de soleil. Aujourd'hui, ça fait aussi du bien. Laurent Cabrol, on se retrouve juste avant 9h ensemble pour un autre point météo.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le lundi 18 février. Toute l'actualité à 8h30 avec vous, Nico Saliagas.
Il serait temps que ce qui reste des gilets jaunes se manifeste pour dire pas en notre nom. L'antisémitisme est un cancer qu'il faut arrêter au plus vite. Réaction ce matin sur Europe 1 de Bernard-Henri Lévy après l'agression dont a été victime Alain Finkielkraut samedi à Paris en marge d'un rassemblement. Il a été insulté alors qu'il marchait dans une rue. Une enquête a été ouverte. Et puis 14 partis politiques appellent à des rassemblements contre l'antisémitisme demain à Paris et dans toute la France. Mais le président d'honneur de la LICRA, Alain Jakubowicz, redoute une faible mobilisation.
On a tous défilé en disant plus jamais ça, plus jamais ça. Et c'est toujours là, et c'est de pire en pire. Donc, manifestation, oui, mais enfin, on n'en attend rien. Et ces partis politiques qui organisent cette manifestation sont des partis politiques qui, pour la plupart, ont été aux affaires et qui ont fait, évidemment, de grandes et belles déclarations depuis toujours. Et ça a donné quoi ? Il y a un décalage entre ces manifestations qui sont organisées et la réalité du mal dont souffre notre société.
Et l'une des figures historiques de ce mouvement de protestation, Ingrid Levavasseur, est venue avec son gilet jaune à la manifestation parisienne d'hier pour célébrer les 3 mois du mouvement. Elle a dû être exfiltrée face à l'hostilité des manifestants qui la traitaient notamment de vendue et même de sale juive. Certains gilets jaunes regrettent ce type de débordement. On les écoute.
Moi, je la vois dans la rue, je lui dis pas bonjour, c'est tout, je vais pas l'agresser, ça va pas.
Il y a pas d'intérêt, on va pas se faire la guerre entre nous non plus, elle est là non, aussi pour la même cause de base.
C'est pas normal d'insulter les gens, mais vous savez que ce mouvement, on parle de la population française, c'est-à-dire les classes sociales sont différentes. Il y a des gilets jaunes qui n'ont jamais su qu'est-ce que c'est le respect, parce qu'ils ont été dans la confrontation, dans la dualité, dans leur vie, ils savent que ça, hein. Il y a une colère de tout.
Propos recueillis par Justin Morin, puis à Lyon, une enquête a été ouverte après l'attaque d'un fourgon de police caillassé samedi à Lyon. Dans l'actualité également, l'affaire Air Cocaïne, jugée devant une cour d'assises spéciale à Aix-en-Provence. Près de 700 kilos de cocaïne avaient été saisis dans un jet privé. 9 hommes, dont 4 Français, devront s'expliquer. Vous en savez sans doute, vous en avez sans doute profité ce week-end. Le beau temps va encore durer, des températures bien au-dessus des normales de saison, comme un début de printemps. Un régal pour les vacanciers rencontrés à Locronan, en Bretagne. Écoutez.
La météo dit c'est des temps de mois d'avril. Et on est en février. Avec un temps comme ça, c'est magnifique. Quoi. Et c'est l'idéal, quoi. Voilà, c'est tout.
C'est un lieu magique. Et puis la pierre, le soleil, enfin, c'est une atmosphère. C'est une histoire, en fait, à travers tous ces murs. Et c'est beaucoup plus agréable avec un soleil.
Propos recueillis par Pierre-Baptiste Vanzini. Et puis Kylian Mbappé, sauveur du Paris Saint-Germain face à Saint-Etienne hier soir. Victoire 1-0 en clôture de la 25e journée de Ligue 1.
Europe 1.
Nico Saliagas, tout de suite, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker.
David, ce matin, une phrase à la une du journal L'Humanité.
Je vous l'ai dit, quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous.
Oui, c'est beau.
Cette phrase fait la une de L'Humanité, on la prête au philosophe essayiste Frantz Fanon. Qui c'était Frantz Fanon ? personne ne le connaît. Un psychiatre, un intellectuel noir, né à Fort-de-France, farouche opposant au colonialisme, partisan de l'indépendance de l'Algérie française, un des fondateurs de ce qu'on appelle le courant tiers-mondiste, un combattant de tous les racismes, mort à 36 ans aux États-Unis, et dont la fille Mireille épousa le fils de Pierre Mendès-France. Ce qui fait la force de cette phrase, c'est autant la personnalité et le parcours de son auteur que sa portée universelle. Quand vous entendez dire du mal des Juifs, dressez l'oreille, on parle de vous. Alors ce matin, qui parle de vous? Le Parisien aujourd'hui en France, qui s'exclame « marre de cette haine » ou encore le Figaro qui évoque en une l'émoi national après l'agression du philosophe Alain Finkielkraut. Le Figaro où Vincent Trémollet de Villers compare les agresseurs du philosophe à une meute animée par cette forme de violence qui habite aujourd'hui les réseaux sociaux. Certes, les réseaux sociaux, mais sur Internet ou pas, la violence, ce sont les gens qui la fabriquent, pas la technologie.
Et ce matin, David, vous avez voulu mettre en une aussi des gens bien.
Des gens qui fabriquent du lien social, pas du lien Internet, mais du vrai lien social, de la réalité. Plutôt qu'évoquer les fauteurs de troubles, autant vous parler des facteurs de lien social. Ceux de la Poste, par exemple. Le Progrès nous explique ce matin comment les voitures des postiers à Talange sont désormais équipées d'une caméra pour cartographier le territoire et créer du lien. Des facteurs à tout faire qui font aussi la une de la Voix du Nord, avec Séverine, qui est la factrice de Bruit les Marchiennes et qui désormais fait bien plus que livrer du courrier. Elle rend visite aux personnes isolées, aux personnes âgées, même quand elle n'a rien à leur livrer. Une visite, une courte conversation et un signal rigolo avec ses usagers. Elle met une pince à linge sur la boîte aux lettres pour leur dire qu'elle va passer. Et si eux mettent aussi une pince à linge, ça veut dire qu'ils ont besoin de quelque chose. Derrière ce soin et cette convivialité, il y a un service de la Poste qui mêle une visite physique, une téléassistance en cas de besoin. Bref, un mélange de techno et d'humanité, moyennant 37,90 € par mois, dont la moitié est déductible des impôts. Alors évidemment, tout le bien que Séverine peut apporter à Gisèle, l'une des retraitées qu'elle visite, les attentions, la délicatesse, tout cela fait moins de bruit que le fracas des réseaux sociaux et les lamentations françaises. Et pourtant, c'est du lien social, du collectif, je voulais en parler.
Internet encore à la une ce matin, avec des craintes de piratage sur les élections européennes.
C'est à la une de l'Est républicain, des dernières nouvelles d'Alsace et de l'Alsace. On s'inquiète à moins de 100 jours des élections européennes et à la veille d'une session de sensibilisation des eurodéputés d'une possible influence russe sur le scrutin européen. L'Alsace parle de cybermenaces. C'est le signal d'alarme est actionné par Julian King, commissaire européen chargé de la sécurité. Pour lui, la probabilité est forte que des gens tentent de manipuler le débat et d'entruquer les résultats. Et il évoque les campagnes pro-russes menées simultanément dans les États européens. Les experts dénombreraient plus de 4500 exemples d'actions de désinformation ces dernières années. Alors que risque l'Europe au moment du vote? Eh bien, le piratage des machines à voter là où on les utilise, la falsification des résultats, la multiplication des faux militants, véritables pollueurs, véritables trolls, sans oublier les infox. Pour empêcher ces parasitages, Julian King appelle de ses voeux un accord européen.
Des trolls, comme vous les appelez, ils agressent aussi des femmes sur Internet.
Elle s'appelle Charlie Danger. C'est la une de Presse Océan, alors qu'on parle depuis une semaine de la fameuse ligue du LOL qui a fait beaucoup de dégâts sur Internet. Elle est auteure de vidéos de vulgarisation scientifique. Elle a beau avoir 500 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Elle raconte à Presse Océan l'enfer que lui font vivre les haineux de la toile. Moqueries, insultes, menaces de viol. Elle a fini par prendre un modérateur pour gérer ses forums tellement il pue la haine et appelle à une prise de conscience collective. Pas sûr qu'elle soit entendue, Charlie, tellement le monde influencé par Internet est devenu fou. Le Figaro nous parle ce matin de ces jeunes filles qui veulent ressembler à leurs selfies. Pour la première fois en France, s'inquiète le quotidien, les 18-34 ans ont subi plus d'interventions esthétiques que les 50-60 ans. Botox, peeling, injection d'acide, le Figaro parle d'une société où l'image de soi est devenue si importante que les jeunes filles s'inspirent non plus des couvertures des magazines, mais des selfies des autres sur Internet. En clair, on veut se faire retoucher aussi facilement qu'on a retouché sa photo. Mmh. Une esthéticienne explique ainsi qu'une partie de ses clientes veulent être belles pour réussir leur selfie. Autrement dit, on se fait belle ou beau pour les réseaux sociaux. Autant dire que ça nous fabrique une génération qui va avoir bien du mal à affronter la réalité.
Le 21e siècle souffre et souffrira vraisemblablement de narcissisme et de déformation. Qui sommes-nous dans cette histoire? Juste
peut-être des marcheurs.
Ou des victimes de Canteloup.
Quand je dis des marcheurs, je ne parle pas de politique, je parle d'errance. Parce que quand on attend Nicolas Canteloup, on se dit, il va falloir que je cours très vite. Il arrive dans quelques instants, c'était la revue de presse de David Abiker.
Reste avec nous sur Europe 1, il est 8h39. Il est 8h41.
Quand Julie est là, le loup Canteloup n'est pas loin. Il arrive, voici la revue de presse.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on commence par le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos.
Eh oui, ma chère Julie, l'info surround, c'est cette agression verbale dont a été victime Alain Finkielkraut par certains gilets jaunes. Alors je le dis tout de suite, mauvaise idée, ce n'est pas en étant agressif avec un écrivain que vous allez trouver du boulot. Quoique si, pardon. Vous pourrez toujours faire polémiste chez Laurent Ruquier. Mais attention, il n'y a que deux postes, hein.
Bah oui, il n'y a que deux postes chez Laurent Ruquier.
Bah oui. Oh là là, le retour à l'allumage. Ah, voilà. Retard à l'allumage. Juju.
Oui. Tiens, justement, il a subi des actes très très graves. Alain Finkielkraut est venu nous voir.
Si je suis caché sous cette table, ce n'est pas par prudence, par lâcheté, mais c'est par précaution. Il y a tellement, madame, de cons en liberté en ce moment, et je donne raison à monsieur Apathy.
Écoutez, vous ne craignez rien, hein, cher Alain, vous avez salué l'intervention des forces de l'ordre, hein, je crois.
Si on m'avait dit que les policiers français, les policiers, allaient reconnaître un philosophe dans la seconde, je dis bravo messieurs. Bravo messieurs, cela dit, je ne veux pas faire ici, sur votre plateau, l'exégèse des insultes que j'ai reçues. Philosophiquement, c'est immonde. Nous sommes tous d'accord sur ce point, mais grammaticalement, c'est très mauvais aussi, très mauvaise qualité. Je cite, tu es un haineux avec un grand N. Là, je m'insurge, là, je dis stop, monsieur Légas, là, je dis, ça va trop loin, je dis stop, on ne fait pas la liaison avec le H. Tu es un haineux, liaison avec le S, pas avec le H aspiré, je le dis à ces jeunes décérébrés. Je vous le dis sur votre plateau, je ne porterai pas plainte, car mon métier, ce n'est pas de punir, mais de comprendre.
Ah, c'est très beau. Et nous sommes de tout cœur avec vous, hein, Alain Finkielkraut. Alain Juppé entre au Conseil constitutionnel. Il va donc décider de la constitutionnalité des lois. Mais certaines voix s'élèvent en rappelant qu'il a été condamné. Et il voit là un paradoxe.
S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Ah, Éric Dupond-Moretti, c'est bien
objection.
Lui.
Objection. Oui, oui, oui. Objection.
Mais attendez, vous tombez bien. En tant qu'avocat, vous allez pouvoir nous éclairer.
Ah, avec plaisir, madame.
Ah, là. Ça rigole plus, là.
Mon client, monsieur Juppé, je vous l'affirme, ici sur votre plateau, est innocent. Par conséquent, rien ne s'oppose à ce qu'il travaille au Conseil constitutionnel. Ce n'est pas comme si l'on mettait monsieur Balkany à la Cour des comptes ou monsieur Hollande au ministère des Beaux-Gosses.
Oh, arrêtez là quand même.
Non mais s'il vous plaît, laissez-moi en dehors de tout ça, j'ai rien fait, j'ai rien dit moi.
S'il vous plaît monsieur, mon client, Alain Juppé est innocent. Vous savez, chacun sait qu'il a payé pour les autres. Il a été, madame, abusé, tel un scout par un abbé vicieux. Oui, monsieur Aliagas, il gambadait paisiblement dans la vie politique quand soudain, sorti de derrière un buisson, je ne sais où, le père Chirac lui offre des bonbons. Et la suite, chacun la connaît.
Oh, j'entends bien, mais il reste quand même un condamné.
Écoutez, votre argument tiendrait si Alain Juppé allait au Conseil constitutionnel pour travailler sur les lois, pour les décortiquer, pour bosser en un mot. Or, nous savons tous que quand on va au Conseil constitutionnel, on y va pour se planquer pendant 9 ans pour ne rien foutre de travail, madame. Monsieur, il n'en est point question. Voilà, allez, bon, je vous laisse, j'y vais.
Vous
je ne
bien.
Facture pas, vous avez de la chance, vous êtes en happy hour.
On est en happy hour.
C'est gratos.
Ce sont les happy hours de Dupond-Moretti.
Merci. Bravo.
Oh là là.
Bravo, bravo. Ça, merci bien. Maître.
Bravo, bravo. Allez, autre chose, Jean-Claude Godin, vous vouliez réagir, hein? Bah non, c'est pas autre chose, c'est toujours Alain Juppé d'ailleurs, au sujet d'Alain Juppé, ancien condamné, qui entre au Conseil constitutionnel. Mais vous êtes gilet jaune, Jean-Claude Godin?
Ben alors, madame je ne suis pas gilet jaune. À minima, je suis comme le professeur Cabrol, je suis petit jaune. Voilà. Non, écoutez, je m'oppose effectivement à la nomination d'Alain Juppé.
Mais pourquoi ?
Mais parce que c'est intenable. Depuis l'annonce, moi, j'ai reçu 400 demandes pour intégrer le Conseil constitutionnel.
Ah ouais ?
Écoutez, j'ai sous les yeux là les frères Simeoni, hein, qui ont à leur actif 130 meurtres, 238 enlèvements, qui m'écrivent « Nous aussi, monsieur Godin, on veut faire chat-perché avec les vieux du Conseil constitutionnel. » Oh, ça vous fait rire, mais j'ai les cousins Guérini qui m'écrivent aussi,
ah,
qui
Guérini
sont trafiquants.
Ah, oui,
les cousins Guérini, ils sont trafiquants de sucre en poudre et vendeurs de bisous payants. Qui me disent, on arrive avec nos filles au Conseil constitutionnel, croyez-moi, on va leur changer l'ambiance. Mais moi, madame Julie, qu'est-ce que je leur réponds, moi? Hein, comme Juppé, je vous emmerde, c'est ça que je leur dis?
Les bisous payants, on retiendra. Allez, merci monsieur Godin. La vidéo choc du week-end, ce sont ces policiers dont la voiture a reçu une véritable pluie de pavés. Ils filment d'ailleurs la vidéo de l'intérieur du véhicule. Et on a le témoignage d'une personne qui a été choqué. On vous écoute.
Ah, ce sont des images terribles, madame.
Carlos Ghosn ? Ah bah, c'est vrai que très souvent, ce sont des Renault, hein, ces voitures de police. Des Renault Scénic, des Renault Mégane. Ouais, ce sont des Renault.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, ils n'avaient peut-être rien contre la police, ces gilets jaunes. C'est peut-être seulement des amoureux de belles voitures. vous savez, je comprends. C'est une réaction normale d'avoir envie de balancer des cailloux sur une Renault Scénic.
Ouais.
Car effectivement, je le concède, elle est moche.
Mais enfin, ça va, oui.
Non, mais sinon, peut-être ça... autour de ce studio, avez-vous une Renault Scénic? Ah non, Lexus, non. Lexus, très bien.
Suivez mon regard.
Sinon, Carlos Ghosn, puisque vous êtes là, ça se passe comment avec la justice pour vous en ce moment?
Écoutez, je plaide coupable. Voilà.
Ah bon?
Oui, pour la ligne moche de la Renault Scénic de police, je plaide coupable.
Ah bon,
oh putain, je pense que je vais prendre 3 fois perpète.
Allez, on va parler des insultes antisémites, hein, à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut. Emmanuel Macron, bonjour. Est-ce que ça vous a choqué? C'était très grave. Hein.
Écoutez, énormément. Et merci à Jean-Michel Apathy pour sa chronique. Mais oui, je le dis, je redis, c'est n'importe nawak les gilets jaunes. Ras-le-bol, je suis comme Adil Rami, je fais un burn-out de gilets jaunes, une overdose, je peux plus les voir en peinture les gilets jaunes, pull jaune, chaussettes jaunes, je gerbe le jaune, même vous Julie avec les Julie et avec les cheveux, je commence à avoir du mal, Merci cher Jean-Michel, écoutez, calmez-vous. Oui, je tiens à rassurer Alain Finkielkraut. Cher Alain, soyez tranquille, j'ai entendu effectivement la syntaxe de ces jeunes abrutis. Vous ne les rencontrerez jamais à votre bureau car il y a fort peu de chances qu'ils intègrent un jour l'Académie française. Ou alors, c'est que le niveau aura beaucoup baissé, mais vraiment beaucoup.
Le sujet de la semaine, c'est la pédophilie au sein de l'Église. Christophe Castaner est votre ministre des cultes, monsieur Macron.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Oula, j'avais oublié qu'il avait aussi ce dossier. Comme s'il avait pas assez d'emmerdes comme ça.
Oui. Le JDD titrait « La pédophilie, la semaine qui va tout changer » en référence au sommet ce jeudi contre la pédophilie.
Voilà, la semaine qui va tout changer, la pédophilie. Ouais. Donc la pédophilie s'arrête, je le dis, à nos concitoyens, ce jeudi à 18h. Bon ben les prêtres pédophiles, éclatez-vous jusque jeudi parce qu'après c'est ceinture.
Oh là là, stop.
Et puis les enfants de cœur, planquez-vous surtout. Hein.
Bon, écoutez, c'est bien que l'Église se remette en question sur ce sujet dramatique. Hein, et le sommet aura lieu au Vatican.
Oui, alors c'est un très bon choix le Vatican, parce qu'au début, il voulait le faire au parc Astérix.
Pff, arrêtez.
Non, je plaisante.
Ah,
non, okay. Il faut toujours... Mais écoutez, monsieur Legas, il faut toujours rire un peu de l'horreur,
oui,
vous savez.
Oui, c'est ça, oui. Bon, allez,
si on a du talent comme vous, je dis oui.
Alors que les scandales sexuels se multiplient au sein de l'Église catholique, un livre révèle l'existence d'un système gay secret au sein du clergé. Mais nos enquêteurs ont obtenu le numéro des personnalités au Vatican qui seraient d'accord pour en témoigner. On va appeler d'ailleurs le Vatican.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Bonjour et bienvenue sur le répondeur secret du Vatican, le réseau numéro 1 des prêtres coquins. Si tu veux assister à la soirée mousse de samedi, tape 1. Si tu veux rencontrer les plus beaux évêques de ta région, tape 2. Si tu appelles pour la soirée cuir et crucifix du deuxième dimanche de carême, tape 3. Si tu veux assister à la soirée prends ta Bible et verrouille ta cible du dimanche de Pâques, tape 4.
Si tu veux parler à un de nos moines téléopérateurs, dis « Je veux parler à un moine ».«
Je veux parler à un moine ».
Tous nos moines sont actuellement au Sena. Waouh, ils font la fête et c'est très caliente et chrétiente. Alors, rappelle ultérieurement. À bientôt sur le répondeur secret du Vatican.
Allez, une nouvelle un peu folle mais sérieuse. Hein, pour terminer, c'est paru dans l'Express. Le nouveau TGV indien a été stoppé net par une vache. Il avait été inauguré la veille par le président. On va accueillir un autre monsieur syndicat SNCF. Bonjour monsieur Régis. Ça vous fait réagir, hein, vraiment. Ça
prouve une fois de plus au monde entier l'excellence à la française.
En termes de train ?
Ben non, en termes de vache. La vache française, elle est intelligente. Elle regarde passer le train peinarde. Hein, de droite à gauche, des fois de gauche à droite. Oh tiens, il n'y a pas de train, doit y avoir une grève. Elle est intelligente, elle comprend la vache française. Mais jamais, jamais comme la vache indienne, elle va essayer de monter dans le train. En plus, elle n'est même pas munie d'un titre de transport. Hein, comme la vache indienne, parce qu'il faut dire la vérité, elle reste qui est la vache indienne. Elle est malhonnête, la vache indienne. Hein, bon, il y a une bonne nouvelle tout de même dans cette affaire.
Ah bon, laquelle ?
Elle devient la vache la plus rapide du monde. 180 km/h. Je peux vous dire qu'il y a 2-3 guépards qui ont dû faire la gueule en la voyant passer.
Bravo Nicolas Canteloup.
Nicolas Canteloup et la revue de presse quotidiennement. Merci aux auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche. Merci Julie. Wendy Bouchard. À partir de 9h et jusqu'à 11h, vous avez 2 heures d'émission avec 2 thèmes que vous exploitez avec vos invités.
Absolument. Bonjour à tous. Alors, au-delà des haines terribles du moment, vous savez que le grand débat se poursuit. 3000 débats organisés en France, 900 000 contributions et parmi celles-ci, une proposition. Rétablir le cumul des mandats pour rapprocher la population de ses élus. On a beaucoup dit combien les députés-maires, les sénateurs-maires étaient importants justement pour faire remonter les ressentis du terrain. Alors, est-ce une solution ? Pour ou contre, ils seront tous représentés en studio, les élus, et j'attends vos témoignages de citoyens pour nous éclairer. Puis à partir de 10h, on va revenir sur la fin annoncée de l'A380. Vous avez longuement parlé de ce sujet la semaine passée. Ce qui nous permettra de revivre les grandes sagas avortées de la Caravelle au Concorde. Voilà, ces grands avions qui nous ont fait rêver. Monsieur Polaco notamment sera avec nous, Michel Polaco. À tout à l'heure, cher ami.
À tout à l'heure, à partir de 9h, le tour de la question avec la talentueuse Wendy Bouchard.
À suivre la météo avec Laurent Cabrol et puis l'essentiel de la matinale juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h53. Et 8h55, l'essentiel de la matinale, c'est dans un instant. Avec vous, Nicolas Aliagas, mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo. Avec un micro, c'est mieux. On ouvre
du
le micro.
Soleil.
Soleil dans mon pays, c'est beau.
Ah, le soleil. Alors, nous, on est contents parce qu'on se dit qu'il y a plus de lumière. Mmh. Ça fait du bien au moral. Les gens ont des soucis. Et c'est vrai, quand il fait beau, ça va mieux. Ça relance même parfois l'économie de quartier. Bon, mais vous dites attention. Trop de soleil et pas assez de pluie, c'est problématique pour la nature.
Oui, en fait, ce n'est pas ce que nous vivons en ce moment qui m'inquiète, c'est ce qui arrive. Parce que nous sommes dans une situation, vous savez, c'est maintenant un langage qui va s'établir en matière de météo qui s'appelle le blocage anticyclonique. Ah. Et c'est un langage que moi qui suis en météo depuis maintenant quelques années, je le pratiquais très peu. Et puis depuis 5 ans, eh bien, à peu près 2-3 fois par an, revient ce blocage anticyclonique qui fait que l'anticyclone est tellement présent qu'il ne tombe plus une goutte d'eau pendant des mois et
donc,
peut-être
sécheresse
des semaines
pour l'été,
au moins.
Quoi, c'est ça, c'est ce qu'on,
et,
c'est ce qu'on
et là, là, on a peur pour la semaine. Bon, demain, aujourd'hui, il pleura un tout petit peu près de la Manche. Demain, il y aura une petite perturbation qui va traverser la moitié
il
nord.
Il pleut aussi un peu dans le sud-est, j'ai vu.
Oui, oui, mais ce sont des pluies tout à fait différentes. Elles viennent de la Méditerranée, c'est le Languedoc-Roussillon. Des températures printanières, aujourd'hui 13 à 20 degrés. Demain, il fera encore un peu plus
c'est
chaud.
C'est très inhabituel, c'est normal au mois de février.
Non, c'est pas normal, mais c'est encore bon. On se dirait dans 3 jours, la pluie va revenir. Non, là, après, on a peur parce qu'à partir de jeudi, l'anticyclone se reconstitue et se reconstitue peut-être pour 15 jours. Donc,
Qu'est-ce que ça veut dire qu'à partir du mois de mars, on peut redescendre à 5 degrés ?
Non, après, on peut avoir plus froid, bien sûr. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à cette époque de l'année où on a envie de pluie parce que c'est maintenant que l'on recharge les nappes phréatiques, eh bien, à cette époque de l'année.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et malheureusement, quand elle risque d'arriver, ce sera peut-être un peu tard parce que la végétation aura repris ses droits.
Quelques températures ce matin ?
Bon, entre 1 et 8 degrés.
Merci beaucoup. À suivre.
Lundi 18 février, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Séléguès.
L'antisémitisme de nouveau à la une de l'actualité, après les insultes dont a été victime le philosophe Alain Finkielkraut, samedi à Paris, pendant la mobilisation des Gilets jaunes. Parmi les hurlements et les injures des agresseurs, cette phrase « Nous sommes le peuple », une phrase qui a fait réagir le philosophe Bernard-Henri Lévy, qui était mon invité à 7h45 sur notre antenne. On l'écoute.
Personne ne peut dire « Je suis le peuple » et en exclure d'autres, quels qu'ils soient, juifs ou autre. Personne n'a le monopole du peuple. Ça, c'est la chose fondamentale à entendre à l'aube de cette semaine, dont j'espère qu'elle sera marquée par ce sursaut républicain. Je pense que les Français vont se réveiller et qu'ils vont se rendre compte que là est le pire de leur histoire et qu'il faut en sortir très vite.
À noter que des rassemblements contre la haine et contre l'antisémitisme sont prévus demain dans tout le pays. Ce 14e samedi de mobilisation des Gilets jaunes a également été marqué par cela.
On est pris à partie par les manifestants. Vas-y, avance.
Ça s'est passé à Lyon.
C'est pas grave.
Un fourgon de police violemment caillassé par des manifestants et à son bord, la conductrice sous le choc. Et son chef d'équipage, Olivier, écoutait son témoignage plein de sang-froid. C'était dans le journal de Céline Kallmann à 7h30.
Dès qu'ils nous ont vus, ils nous ont foncé dessus et les pavés ont commencé à pleuvoir. Un degré comme ça de défoulement sur les forces de l'ordre, je crois que c'est la première fois dans ma carrière que je subis ça. Et je ne sais pas comment ça aurait tourné si effectivement on était resté bloqué.
Et puis la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, attendue dans un peu moins de 2 heures à la maternité de Bernay dans l'Eure. Un accueil qui risque d'être un peu chahuté. Le gouvernement souhaite en effet fermer la maternité et la remplacer par un centre périnatal. L'argument de la sécurité est avancé, mais ça fait grincer des dents des habitants. Écoutez, Sarah Ferraud, elle est infirmière et syndicaliste à la maternité de Bernay. C'était dans le journal de 8h.
On se sent des citoyens de seconde zone. On paye nos impôts comme les Parisiens. Donc on veut avoir des services publics, comme à Paris. Dans nos petites villes, les hôpitaux sont les premiers employeurs. On perd toute attractivité au niveau territorial.
Voilà pour l'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et on se retrouve dès demain, 16h50,
pour
le passage de relais avec vous, Céline Dacosta, avec Eva Rock. Mais tout de suite, Wendy Bouchard.
Je vous attends avec votre contribution 3921, les amis.
Le tour de la question également sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Bonne journée à tous.
À demain, Nikos.
À demain, Julie.